Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donald Trump repousse son ultimatum de 24 heures et menace encore une fois Téhéran dans un message injurieux de frapper les infrastructures essentielles à l'Iran qu'il appelle à rouvrir le détroit d'Ormuz. Soupçonné d'une quinzaine de viols, agressions sexuelles et harcèlement, un psychiatre mis en examen à Reims et selon nos informations, il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes. Et l'OM qui a perdu plus qu'un match hier soir face à Monaco, battu 2-1 rétrogradé au pied du podium, est désormais sous pression.
Ouvrez le détroit ou vous vivrez l'enfer.
C'est la nouvelle menace de Donald Trump qui fixe un nouvel ultimatum à l'Iran. Il le dit sur son réseau social. À Washington, ce matin pour RMC, notre correspondant Antoine Lard, un message posté hier soir avec ces mots à lui, loin des standards, Antoine, de la diplomatie.
Oui, dans un message sur son réseau social, Donald Trump se lâche et menace l'Iran de façon particulièrement ordurière et violente. Ouvrez ce putain de détroit d'Ormuz, bande de tarés. Voilà ce qu'il écrit. Et il affirme qu'il fera tout sauter si les Iraniens refusent. Il menace de s'en prendre aux ponts et aux centrales électriques du pays. Dans le même temps, le président repousse de 24 heures son ultimatum. La nouvelle date butoir, c'est mardi soir. Trump dit qu'il y a des chances d'obtenir un accord d'ici là. Alors, c'est pas la première fois qu'il fait le coup de fixer un ultimatum et puis finalement de se dégonfler. Mais là, il semble déterminé à mettre ses menaces à exécution. Depuis le sauvetage spectaculaire du pilote du F-15, il est en roue libre, prêt à s'en prendre aux infrastructures civiles de l'Iran, ce qui, rappelons-le, est contraire au droit international et pourrait constituer un crime de guerre.
Et pas de répit sur les marchés au 38e jour de guerre. Le prix du baril de pétrole dépasse les 110 dollars. Si les pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter pour la deuxième fois hier leur quota de production depuis le début du conflit, ça reste compliqué à la pompe. Avec 18% des stations-service en rupture de stock d'au moins un carburant, c'est 6 points de plus que vendredi dernier. Et si vous en trouvez, faut-il encore que son prix ne soit pas trop élevé? 2,10€ en moyenne le sans-plomb 98, selon le comparateur carbu.com, comptez 2,30€ pour le gazole. Des aides ciblées doivent être annoncées dans la semaine par le gouvernement. En attendant, il faut pallier au plus pressé. C'est le cas de ces chefs d'entreprise qui ont décidé d'accorder, Marion Dégas, un petit coup de pouce pour permettre à leurs salariés de travailler en toute sérénité.
Certains patrons ont opté pour le télétravail. C'est le cas de Romain Beck. Il y a deux semaines, les salariés de sa société de conseil ont appris qu'ils allaient bénéficier de 2 jours de télétravail par semaine contre 1 avant le début de la crise.
On a quand même été habitués au télétravail avec le Covid. Donc en tout cas, en termes d'organisation, tout était déjà établi. Donc ça n'a pas de conséquences.
Mais dans certains secteurs, télétravail impossible. Alors pour soutenir ces 64 salariés, Aymeric Brousseau, fabricant de chaussettes dans le Limousin, a décidé de leur verser une prime exceptionnelle de 600€ pour le mois d'avril.
C'est une prime qui est quand même significative parce que c'est 600€ net pour chacun. Il y en a qui habitent à plus de 30 km, donc 30 km le matin, 30 km le soir, leur plein, ça se voit immédiatement.
D'autres mises sur le covoiturage, chez Michelin, c'est déjà une habitude pour beaucoup de salariés. Mais ces dernières semaines, le nombre de covoitureurs augmente, constate Serge Godefroy, directeur des sites tertiaires du fabricant de pneus.
Avec cette augmentation du coût du carburant, on a eu en mars 45 nouveaux inscrits, donc la tendance est à la hausse.
Et selon lui, c'est une économie de carburant d'environ 60€ pour chaque salarié pratiquant le covoiturage.
Et on vous attend évidemment au 32-16. Racontez-nous votre week-end de Pâques. Est-ce que vous avez galéré à trouver du carburant, que ce soit du sans-plomb ou du gasoil? Et une fois qu'on le trouve, on le trouve à quel prix? C'est aussi la question. Je rappelle qu'il y a la carte, le plein RMC BFM, carte interactive sur le site et l'application RMC qui vous permet de trouver le carburant le moins cher près de chez vous. Mais vous nous appelez au 32-16, bien sûr. Il est 7h04 sur RMC.
Nouveau coup dur pour le secteur de l'habillement français. Le chausseur Minelli a été placé en redressement judiciaire. C'était pas une première. Romain Houg, l'enseigne avait connu le même sort il y a un peu plus de 2 ans, sauvé à l'époque par 3 repreneurs.
Oui, l'entreprise française fondée en 1973 avait été placée en redressement judiciaire en septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Marseille. Avant d'être donc sauvé en 2024, laissant sur le carreau près de 400 salariés. Ils sont encore un peu moins de 200 aujourd'hui et les résultats ne sont pas beaucoup plus reluisants. La marque a perdu 3,7 millions d'euros lors de son dernier exercice comptable 2024-2025. Une dizaine de boutiques reprises par les nouveaux propriétaires sont déficitaires. Minelli fait partie de cette longue liste d'entreprises de prêt-à-porter placées en redressement judiciaire ces 2 dernières années avec Claire, ZKKS, Denifer ou Hokkaidi, des marques qui souffrent de la concurrence ardue avec les sites asiatiques à très bas prix, comme par exemple le géant Shein.
Un psychiatre mis en examen à Reims, un homme de 51 ans soupçonné de 16 faits de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sur des patientes. De nouvelles plaintes ont été déposées la semaine dernière. Toutes ces patientes ont depuis été contactées par les enquêteurs et selon vos informations, Maxime Clieruza du service de justice de RMC, il pourrait y avoir plusieurs dizaines de victimes supplémentaires dans d'autres départements.
Oui, car avant la Marne, ce psychiatre a exercé dans le Nord, l'Oise ainsi que l'Aisne. Ce sont donc plusieurs centaines de femmes qui doivent maintenant être contactées, car selon le procureur de la République, une majorité des 665 patientes de Reims dressent le même constat, des faits récurrents et très nombreux, des caresses dans le dos et sur les fesses, des questions déplacées de ce médecin sur leur sexualité qui allait jusqu'à leur demander d'imaginer des relations sexuelles avec lui. Une des patientes évoque même la prise d'un anxiolytique dans le cabinet du psychiatre, suivi d'un malaise. À son réveil, elle affirme avoir été violée, se pose donc désormais la question d'une potentielle soumission chimique, car l'homme est également soupçonné d'avoir prescrit à très forte dose anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs sans justification médicale. Le médecin, lui, nie tous les faits qui lui sont reprochés.
Les astronautes de la mission Artemis 2 sont entrés dans la sphère d'influence lunaire qui va leur permettre de faire le tour de la Lune. Aujourd'hui, c'est une première depuis la mission Apollo il y a plus de 50 ans. Sauf qu'ils iront encore plus loin, à 406 000 km de la Terre précisément. Jamais un humain n'est allé aussi loin. À ce moment-là, les communications seront coupées pendant une quarantaine de minutes. Ils pourront par la suite assister à une éclipse, puis au lever de la Terre qui apparaîtra comme un quartier de Lune.
Un lever de Terre.
Un lever de terre.
Ça, c'est quand même fascinant.
Ils vont voir un lever de terre. La photo prise à l'époque en 1972.
Et ils vont faire mieux maintenant. Parce que les appareils photo ont progressé. Allez, l'OM éjecté du podium de Ligue 1.
Ça vous fait rire? Battu 2-1 hier soir à Monaco. Les Marseillais reculent à la 4e place et se retrouvent plus que jamais menacés. Clément Brossard a seulement 6 journées de la fin du championnat.
Oui, hier soir, les Marseillais sont sortis du stade Louis II la tête basse. Après s'être montré trop passif défensivement, encaissant 2 buts en un quart d'heure, le latéral gauche Facundo Medina en est conscient.
Je suis un peu dégoûté. C'est que le mérite pas ce moment, mais on va pas lâcher. Il faut faire autocritique, surtout nous, défensivement. On peut pas faire cette prestation. Même si on a pas mal joué, on a créé beaucoup d'occasions et tout, il faut être efficace.
Car l'OM s'est créé bien plus d'opportunités, mais repart avec une défaite permettant à Monaco de revenir à sa hauteur et à Lille de prendre sa place. Sur le podium, l'attaquant Amine Gouiri promet une réaction.
Il reste ces matchs, on met tous les états d'âme de côté. On a peut Marseille, on n'a pas à douter, on a un point, donc c'est à nous de faire le job. On est un collectif et on a tous le même objectif, c'est de qualifier la Ligue des Champions.
Et Marseille y parviendra, assure l'entraîneur Habib Bey.
On a été à un moment donné chasseur, on est revenu, on a été chassé, on redevient de nouveau chasseur. Je n'ai aucun problème sur la croyance de mon équipe sur les 6 derniers matchs à aller chercher l'objectif, parce que même si on est dans une dynamique négative, le match de ce soir, dans le contenu, dans les opportunités, dans ce qu'on a été capable de créer, doit nous amener à avoir de la confiance.
Le faux pas sera interdit le week-end prochain contre Metz, dernier de Ligue 1.
Et la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby avec un choc en quart de finale comme l'an dernier. Bordeaux-Bègles affrontera Toulouse. Ce sera dimanche prochain. Les Bordelais tenants du titre ont écrasé Leicester 64-14 hier et Toulon se déplacera sur la pelouse des Glasgow Warriors. Ce sera samedi.
Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal de 7h en direct sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et Julien est en ligne avec nous depuis le Nord, depuis Lille précisément. Bonjour Julien.
Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe, merci de me recevoir.
Soyez le bienvenu, bah, c'est normal de vous recevoir déjà. Vous êtes ici chez vous, Julien, vous bossez aujourd'hui, vous êtes ambulancier, je vois.
Eh ben, écoutez, je viens de terminer ma nuit là pour le coup, donc j'étais en train de manger.
Voilà, ambulancier, j'imagine mon cher Julien, que vous avez besoin de carburant pour rouler. Où est-ce qu'on en est? On parle de 18% de stations en France qui connaissent des pénuries sur au moins un carburant.
Mais j'ai envie de dire, ça serait peut-être 18% sur l'île. C'est affreux. C'est très, très compliqué de pouvoir se ravitailler sur l'île. Pour le coup, nous, ça devient vraiment une chasse au trésor, hein, pour trouver une station qui peut nous fournir en gasoil. Et comme vous l'avez dit si bien, hein, c'est vital. Hein,
pour vous avez dû tourner beaucoup.
Ouais, pas mal de temps. On a fait du bouche à oreille. On a essayé d'appeler des collègues ou autres pour savoir un peu où on pouvait se ravitailler au plus proche. Donc,
vous avez regardé l'appli RMC, Julien?
Alors, pour le coup, l'appeler RMC, non, j'y ai pas pensé.
C'est vrai. Vous le saurez maintenant. Non, mais c'est pas grave, vous le saurez maintenant.
Eh ben, c'est super, ça. C'est
toujours mais je le dis, hein, et puis on le rappelle souvent, mais on garantit pas que le carburant sera pas cher. On garantit que vous saurez où il y en a et que ce sera le moins cher du coin. Parce que du coup, pardonnez-moi, Julien, mais quand on galère pour en trouver, finalement, on le prend à n'importe quel prix.
Ben c'est ça, sauf que nous, après, on a des restrictions au niveau des stations. On ne peut pas aller se ravitailler non plus n'importe où parce qu'on travaille avec exclusivement la station Total. Ben oui. Donc voilà, donc c'est là la problématique, c'est que Total.
Ben merci
là,
Julien. Non, non, mais on va faire compliqué. Comme ça. Julien, voilà. À Lille, où que vous soyez sur le territoire, vous nous appelez au 3216. Vous téléchargez l'appli pour trouver les stations près de chez vous, mais vous nous dites surtout quelle est la situation ce matin. On sera avec un représentant des pétroliers à 7h40. J'ai besoin de lui parler. Dans un instant, on sera avec Alain Fontaine. Bonjour Alain Fontaine.
Bonjour.
Le chef du restaurant Le Mescurin va parler de l'autorisation des tickets resto le dimanche, y compris pour la grande distribution. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Pouvoir utiliser ces tickets restaurant le dimanche, ce sera peut-être bientôt possible d'ici à la fin de l'année. Bonjour Alain Fontaine.
Bonjour.
Vous êtes le chef du restaurant Le Mesturet, président de l'association des maîtres restaurateurs. Votre parti pris ce matin, c'est banco, ça va nous ramener des clients en fait.
Tout à fait. C'est ce projet de loi, enfin cette décision, va permettre à la marge de nous ramener des clients, puisque le dimanche, les gens, à part ceux qui étaient autorisés et qui travaillaient le samedi et dimanche, parce que le titre restaurant était utilisé aussi par les gens qui travaillent le dimanche, leurs employeurs.
Bien sûr, mais aujourd'hui, il est normalement pour la très grande majorité des gens,
pour la grande majorité,
calqué sur les jours de boulot, donc lundi, vendredi.
Tout à fait. Alors, ça va nous ramener à la marge. Alors, bien sûr, ils vont pouvoir l'utiliser toujours dans la grande distribution, mais à la marge, ça va nous ramener des clients qui, des fois par couple, ont deux cartes dématérialisées et vont pouvoir les utiliser à hauteur de 25 euros. Ils peuvent très bien aller dans un commerce, dans un restaurant et dépenser 50 euros mais sur l'addition.
Alors, je rappelle, cette annonce est celle de Serge Papin, qui est le ministre du Commerce et du Pouvoir d'Achat. La réforme des titres restaurants qui fera l'objet d'un texte d'ici à l'été. On l'attend, hein, ce texte, depuis un moment. Pouvoir d'achat, liberté, vos collègues restaurateurs, eux, sont vent debout. C'est fini le titre restaurant, c'est devenu un ticket alimentaire d'ici. Vous êtes fait un peu voler le magot par la grande distribution, non?
Alors, la finalité, oui, on s'est fait... Alors, l'argent a disparu, on parle de plusieurs centaines de millions qui ne vont pas dans les caisses des restaurateurs. Pour autant, on comprend bien qu'il y a une crise de pouvoir d'achat et que, quelque part, on peut pas non plus faire comme si cette crise de pouvoir d'achat n'existait pas. On va la voir avec le problème de l'essence, où va y avoir dans chaque ménage des choix budgétaires, remplir son réservoir.
Vous dites quoi ? En fait, je regardais dans le détail la grande distribution. On est sur des chiffres de fin 2024. La grande distribution qui captait en gros un tiers des dépenses de titres restaurant, 40% pour les restos classiques, et puis le reste pour les snacks, les boulangeries, etc. Vous dites qu'on s'est fait voler le magot, mais on peut pas se battre contre le pouvoir d'achat des gens, quoi.
Non, je crois que effectivement, ça serait indécent de dire que le titre restaurant aujourd'hui, après maintenant pratiquement 40 ans où il a été dévoyé de sa finalité, il faut penser que des commerces déjà de bouche le prenaient depuis 40 ans et que effectivement la crise de Covid a accéléré le système. Et aujourd'hui, on voit pas comment face à la population, on peut dire bah écoutez, non, ces 25 euros nous reviennent. Alors que des gens nourrissent leur famille avec ces 25 euros.
Ils font leur... Donc... Écoutez Nadia qui est en ligne avec nous à Nîmes dans le Gard justement. Bonjour Nadia.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue au 32-16 ce matin. Vous les utilisez pourquoi vos tickets resto vous ?
Alors moi c'est vrai, je les utilise essentiellement chez mon boucher. C'est vrai que je faisais pas mal de restos, mais j'en fais moins qu'avant, vraiment. Et c'est vrai aussi le dimanche, pourquoi pas ? C'est vrai que le dimanche on a souvent aussi la flemme de cuisiner. Ça peut être pas mal aussi d'avoir les tickets resto, qu'on puisse utiliser nos tickets resto ce jour-là.
Bah, pouvoir les utiliser, peut-être ramener des clients pour les restaurants. Alors tout vous disiez aussi, en plus, les grandes surfaces, pour la plupart, le dimanche, elles ferment assez tôt.
Elles ferment assez tôt et les courses, vous savez, se font beaucoup, beaucoup en semaine. Et donc je crois que c'est un avantage énorme qui... C'est un premier pas. Il faut pas bouder notre plaisir parce qu'effectivement, ils sont dans leur rôle, les syndicats, de vouloir récupérer le magot.
Les syndicats de la restauration.
Les syndicats de la restauration.
Ils
sont dans leur rôle. Mais moi, ce que je pense aujourd'hui, il faut qu'ils se battent, par exemple, pour quelque chose que l'on veut depuis nous le début, que j'ai annoncé d'ailleurs sur votre antenne il y a à peine un an, c'est qu'on déplafonne pour les restaurants. Vous voyez qu'on reste sur le plafond pour la grande distribution à 25 euros, mais qu'on déplafonne pour les restaurants et que quelqu'un qui a un solde de 100, 150 ou 200 euros, qui peut perdre de temps en temps si l'employeur ne fait pas faire la bascule par l'émetteur, il peut le perdre à la fin de l'année. C'est
vous
possible.
Dites à la fin de l'année, on peut se faire quand on a
un bien sûr,
sur la carte.
Déplafonnons, on a tout, on a perdu.
En fait, on a complètement dévoyé l'usage des tickets resto. À l'origine, je vais le rappeler côté syndicat, mais alors pas les syndicats de la profession, les syndicats des salariés. L'idée à l'origine du ticket resto, c'est quand même de pouvoir garantir à ceux qui travaillent de manger convenablement le midi quand on travaille.
À l'extérieur, quand vous n'avez pas de restaurant d'entreprise
dans votre... Il n'y a pas de cantine au boulot.
Tout à fait.
Bon, c'est pas fait pour aller, même si c'est très sympa, c'est pas fait pour aller déjeuner en famille le dimanche.
Au début, c'était... Alors... Effectivement, mais quand il y a eu le ticket, vous savez, le ticket papier, on voyait bien entendu dans les restaurants les gens payaient en titre restaurant papier. Aujourd'hui, avec le titre dématérialisé, c'est plus possible. Et donc, on a vu disparaître ça aussi, où les familles venaient avec des tickets papier, les dépenser dans le restaurant, et on les acceptait bien volontiers. Maintenant, avec le titre dématérialisé, c'est pas possible. Non, il faut vraiment se battre. Les syndicats doivent se battre pour le déplafonnement. La restauration.
Mathieu, je vais poser la question à Nagia. Si à la fin de l'année, est-ce que vous pourriez vous faire un petit resto si c'était déplafonné plutôt que d'aller chez le boucher, même si le boucher qui nous écoute.
Totalement. Non, mais totalement. J'apprécie me faire de bons restos. Mais c'est vrai que parfois, on est aussi un peu déçu. On se dit qu'on va se faire un bon resto. C'est basique. Il y a rien de spécial et ça coûte un peu cher aussi.
Ah bah ça, c'est l'autre combat d'Alain Fontaine. Je me permets. Pas tant sur le prix, mais sur la classification. Vous êtes à la tête de l'association des maîtres restaurateurs. Vous battez d'ailleurs pour que le bistrot français soit reconnu aussi, oui, à l'UNESCO. Je le rappelle. Vous êtes toujours ouvert aujourd'hui?
Ah bien sûr que je suis ouvert, évidemment.
Ouais. D'un mot, il nous reste assez peu de temps, mais pour nous faire saliver un plat de chez vous là aujourd'hui, qu'est-ce que...
Aujourd'hui, c'est l'agneau, hein, c'est l'agneau pascal. Et on a fait, comme le chocolat est un peu cher, en entrée, on a fait les œufs mimosa, qui est une entrée typique des bistrots. On a fait les œufs mimosa.
Les œufs mimosa, de l'agneau pascal, évidemment.
Alors, et puis le baba au rhum en dessert.
Bon, c'est pas férié pour vous aujourd'hui. Il y a près de 3 Français sur 4 qui veulent avoir le droit de travailler le 1er mai. Le résultat d'un sondage commandé par la Confédération des petites et moyennes entreprises, publié par nos confrères de la Tribune, fleuristes et boulangers. Vous avez suivi ce débat ces dernières années, qui n'ont pas le droit de travailler de faire travailler leurs salariés sous peine d'amende. Il faut libérer les jours fériés, Alain Mesturet.
Je crois qu'il faut...
Alain Fontaine, pardon, du Mesturet.
C'est possible. Il faut libérer un maximum la capacité d'entreprendre. En France, aujourd'hui, on est trop freiné par la capacité d'entreprendre. D'entreprendre pour les employés, d'entreprendre pour les employeurs. Il faut libérer la capacité d'entreprendre. Donc oui, les jours fériés, oui, donc le 1er mai, on peut fermer, on peut ouvrir.
Vous bossez en tout cas aujourd'hui.
Parce que devant, il y a des consommateurs qui sont dans l'attente de pouvoir consommer.
Eh ben, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On en reparle à 7h50 avec notre voix de droite du lundi, c'est Louis Sarkozy ce matin. Il faut laisser les gens bosser, nous dit-il. Merci Alain Fontaine. Je vous laisse retourner en cuisine.
Tout à fait.
Au Messuret, Alain Fontaine, restaurant. Et président de l'association des maîtres restaurateurs. Merci mille fois. Il est 7h19 sur RMC. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Paola Ferrari. Bonjour Paola.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue sur RMC, bienvenue parmi nous.
Merci.
Des dizaines d'avions, des centaines de soldats américains et un sauvetage incroyable dans les montagnes iraniennes. Vous avez peut-être suivi ça ce week-end. L'armée américaine a récupéré l'aviateur qui avait disparu en vol.
Oui, vous connaissez le film Il faut sauver le soldat Ryan. Et bien, ce qui s'est passé en Iran, il ressemble furieusement. Je vous raconte ça dans une petite minute.
Et puis à 8h30, le face-à-face, Guillaume Daret reçoit l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes. Exactement sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC, RMC Story. Bon réveil. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Paola Purari, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Ce week-end, l'armée américaine a réussi à récupérer l'officier disparu dans le crash de son avion dans les montagnes iraniennes. Des moyens spectaculaires déployés pour une opération impressionnante pour respecter une loi qui n'a pas d'âge.
Oui Mathieu, et ce matin on va partir à la guerre, et sachez que depuis que je suis avec vous, depuis que j'ai rejoint les forces de votre radio, vous avez un commandement solide dans l'équipe. Je ne vous laisserai jamais tomber. On ne laisse jamais derrière soi un frère d'armes.
Et depuis quand, à quand remonte cette règle?
Eh bien ça remonte à la Grèce antique. 406 avant Jésus-Christ, les Athéniens viennent d'écraser Sparte aux Arginus, victoire totale. Sauf qu'après la bataille, eh bien une tempête se lève et les généraux vont renoncer à récupérer les naufragés. Mauvais calcul. À leur retour à Athènes, 6 seront exécutés, pas pour avoir perdu la bataille, je vous rappelle qu'ils l'avaient gagnée, mais pour avoir abandonné leurs hommes à la mer. Déjà à l'époque, c'est une faute impardonnable.
Et les Américains, eux, en ont fait une doctrine.
Oui, un code d'honneur même, on peut dire, et même des chefs-d'œuvre inspirés de la réalité. Alors si je vous dis 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille perd 3 fils au combat en quelques jours. L'armée américaine décide alors d'envoyer une unité entière pour récupérer le 4e, le dernier, quelque part dans la Normandie en feu. feu, vous me répondez.
Il faut sauver le soldat Ryan.
Dans le mille, signé par le grand Spielberg, évidemment. Alors, le film est un peu romancé, hein, je vous l'accorde. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la directive existe vraiment. On l'appelle la Soul Survivor Policy. Si tous les fils d'une même famille tombent au combat, eh bien, le dernier est rapatrié d'office la vie d'un homme contre une unité entière. Et en 1974, eh bien, l'armée va aller encore plus loin. Elle en fait un serment. Elle l'inscrit dans ce qu'on appelle la Ranger Creed, la Bible des Rangers, l'élite de l'infanterie américaine. La dernière phrase est sans ambiguïté, Mathieu, quatre mots devenus un cri de guerre, no men left behind.
Alors, ça a donné des héros légendaires.
On pense tous à la Bosnie en 1995, Scott O'Grady. Hein, son F-16 est abattu par un missile au-dessus de la montagne. Il se retrouve seul, cerné par les forces ennemies qui ratissent les bois. 6 jours sans ravitaillement, une éponge pour récupérer de l'eau, des escargots en guise de repas, et puis 2 hélicoptères Marines qui fondent sur la zone en plein jour et l'exfiltre en 5 petites minutes, et qui l'accueille en grande pompe à son retour. Eh bien, c'est Bill Clinton en personne. La photo va évidemment faire le tour du monde, l'image reste, mais l'homme passe.
Et on sait tous, d'ailleurs, Bill Clinton bien sûr, mais ce week-end encore, l'image, c'est une arme.
Mais l'image, c'est une arme redoutable, Mathieu. L'armée américaine en joue des deux côtés. Alors, il y a évidemment les images qu'on cache. Sous Bush père, pendant la première guerre d'Irak, interdiction totale de photographier les cercueils à la base de Dover. Des centaines de rapatriements dans le silence et le noir, parce qu'une rangée de drapeaux américains sur des boîtes noires, ça peut retourner une opinion publique. Et puis, il y a les images qu'on exhibe, évidemment, qu'on propulse, un colonel vivant, secouru au cœur du territoire ennemi à la barbe des Iraniens, et Trump qui l'annonce en lettres capitales sur son réseau Truth Social. Ce n'est pas un communiqué, c'est quasiment une bande-annonce. Ah,
vous pensez que ce qui s'est passé ce week-end, là, Hollywood va s'en emparer ?
Ah bah, je suis prête à faire des paris. Là, en ce moment même, tout de suite, à Los Angeles, il y a des gens qui boivent du café froid et qui sont en train d'écrire des titres sur des ordinateurs comme 48 heures en Iran, vol de nuit, l'homme que Téhéran voulait, opération colonel. Pas besoin d'attendre la fin de la guerre. L'Amérique ne laisse jamais un homme derrière elle. Elle ne laisse jamais non plus une bonne histoire sans écran. Les deux font presque partie du manuel.
Ouais, c'est quand l'histoire éclaire l'actualité. Et puis parfois, c'est quand on croise la réalité et la fiction aussi. Paola Purari, merci beaucoup.
Merci.
Une chronique à réécouter sur le podcast, sur l'application RMC. Bien entendu, il est 7h24.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton.
Eh oui, mais ils sont gâtés nos auditeurs. Une bonne interview de Thierry Breton dès 8h30. Ça, c'est un lundi de Pâques qui commence bien. Bande de petits gourmands, va. Donc voilà, même un jour férié, Guillaume Darrey travaille. Il n'est pas en train de dormir à la maison. À la maison Darrey. On attaque fort.
Ah ouais.
J'ai bossé tout le week-end de Pâques. Après, je dis pas que Guillaume ne va pas faire l'interview en pantoufles et pantalons de pyjama. On verra que la veste et la cravate, ça reste des demi-vacances. D'ailleurs, on a la chance, nous, d'avoir un vrai bon invité, Thierry Breton, en ce lundi de Pâques. Parce que normalement, le lundi de Pâques, c'est un peu galère pour les programmateurs. Je suis sûr que Nicolas Dupont-Aignan est invité quelque part ce matin. France Info, et ce matin, nous avons la chance de recevoir le maire de Hyères et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. De toute façon, Florian Philippot n'a pas pu venir. On l'a eu en premier. Alors, j'ai regardé l'actu de Thierry Breton. Je me suis régalé. C'était du pur délire. Par exemple, Mathieu, accrochez-vous à vos bretelles.
Je suis accroché.
Thierry Breton, donc ancien commissaire européen, propose d'interdire de voter un budget avec un déficit supérieur à 1% du PIB.
Tadam ! C'est le lundi de Pâques ou le 1er avril ?
Non mais jusqu'à présent, je vous ai embarqué dans le rêve. Alors jusqu'à présent, on a eu droit à un déficit de 3%. Donc c'est pour ça qu'on est à 5. Donc là, le 1%, autant vous dire, on va le respecter autant que les 50 km/h sur le périph. Que vous demandez à nous d'avoir 1% de déficit, c'est un peu comme demander à Gérard Larcher de devenir vegan ou à Francis Huster de moins se regarder dans la glace, quoi. S'il se présente à la présidentielle, ça va être sympa son programme à Thierry Breton. Il y aura des belles coupes dans le budget. Alors si vous êtes au chômage, voilà, les indemnités seront ramenées à 3 semaines. Ce sera plus court. Et si vous avez un cancer, la chimio n'est pas remboursée, mais vous avez le droit d'acheter une perruque avec vos tickets restaurants. Merci Thierry. Donc voilà, c'est notre
ambiance.
C'est le lundi de Pâques. C'est la fête chrétienne. Alors d'ailleurs, vous avez vu, le pape a renoué avec certaines traditions. Il est allé laver des pieds de prêtres. On lave plus les pieds des gens, c'est dommage. Ça se les gens qui nous confessent comme ça, qui recueillent nos sentiments. C'est dommage. Enfin, il y a Thierry Breton là qui vient à 8h30 se faire interroger.
Il va lui laver les pieds.
Ce serait classe que il enlève les godasses de Guillaume et qu'il lui lave les pieds en disant je vous demande l'absolution, monsieur Darret. Oui, j'ai pas un bon bilan pour mes sociétés d'un point de vue comptable, j'étais dans l'erreur. Et Guillaume dirait ouais, frotte. Allez, frotte. Oublie pas entre les orteils. Tu me feras une petite pédicure après. Ça ferait de l'audience. Les gens veulent voir ça.
Il se passerait
quelque
chose.
Pas, voilà, c'est dommage. Sauf sur CNews. Mais là, c'est l'inverse. C'est Christine Kelly qui lave les pieds des politiques avec sa langue, ceci dit. C'est balèze. Allez, rendez-vous avec Thierry Breton à 8h30, c'est-à-dire 8h30.
Il y a une promesse. Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure en podcast sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le printemps en fin de retour, Charlène le disait à l'instant, le thermomètre va frôler les 30 degrés dans le sud-ouest cet après-midi. Le soleil lui brillera sur toute la France, alors pas de jaloux. Donald Trump accorde 24 heures supplémentaires à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Hormuz, mais sans réponse positive d'ici demain soir, le président américain menace de tout faire sauter. Tadej Pogacar s'impose sur le Tour des Flandres et fait un pas de plus vers l'exploit que serait celui de remporter les 5 courses majeures cette année.
Alors Charlène vient de l'évoquer, presque le retour du printemps, presque de l'été, finalement. En tout cas, on a un lundi au soleil aujourd'hui.
Et oui, et on va pouvoir le passer à chercher des œufs de Pâques, par exemple, dans le sud-ouest. Il faudra toutefois se presser un petit peu, sinon le chocolat va fondre jusqu'à 29 degrés, attendu cet après-midi. Moins chaud, mais tout autant ensoleillé, la capitale n'est pas en reste. À Paris, les promeneurs ressortent les lunettes de soleil, Caroline Renaud.
Un rayon de soleil et quelques degrés de plus, c'est suffisant pour ravir Anastasia et Lise.
Un bout de graissin, la tapenade.
Attends, donne-la-moi.
Et de la bonne compagnie.
Allez hop.
On reprend un peu le sourire.
Bon, l'accessoire du jour, c'est la lunette en fait. Le plan, c'était promenade et se poser au soleil.
Quelques mètres plus loin, Mélissa, elle, trinque avec son mari.
Santé.
Santé.
Sur leur nappe de pique-nique, une bouteille de vin blanc.
Les petites olives, le petit saucisson, très bien.
Et l'impression d'avoir dit adieu à la pluie.
Profiter de la lumière, les arbres en fleurs, sortir, de revoir du monde. Voilà, on peut revivre.
C'est aussi ce que pense Yannick, un paquet de chips ouvert pour l'occasion.
Enfin, la lumière, on sort un peu de chez nous. J'arrête d'hiberner parce qu'à partir d'octobre jusqu'au février, mars, j'arrête de sortir, je fais plus la fête. Et là, ça y est, c'est reparti.
Mais à ses côtés, Lorraine, l'œil sur la météo, ne laisse pas encore tomber l'écharpe.
Combien de degrés fait-il ? 16 degrés ? Le soleil, il donne pas si. Hein.
Elle a déjà enlevé une couche, mais pour la crème solaire, ce sera quand on aura franchi les 20 degrés, dit-elle. Et bonne nouvelle, ce sera le cas dès demain à Paris.
Donald Trump repousse son ultimatum de 24 heures et menace de nouveau l'Iran. Éloignez les oreilles innocentes. Le président américain ne mâche pas ses mots. Je cite, ouvrez le putain de Détroit, espèce de taré. Les Iraniens ont donc jusqu'à demain soir 20h, heure de Washington. Chez nous, il sera alors 2h du matin mercredi pour ouvrir ce Détroit d'Hormuz. Sinon, Donald Trump fera tout sauter. Voilà ce qu'il a écrit sur son réseau social hier soir, en profitant aussi pour se féliciter du sauvetage du pilote américain en Iran. Comment l'opération s'est-elle déroulée, Célestin Bougère?
Réfugié dans les montagnes du sud-ouest de l'Iran, l'aviateur a réussi à se cacher de l'armée iranienne retranchée dans une crevasse. La capture du pilote américain aurait été une catastrophe politique pour les États-Unis, d'après le général Philippe Sidos, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL.
Si les Iraniens l'avaient récupéré, c'était un prestige pour eux, un moyen de pression. C'était un officier supérieur de haut niveau. Pour les Américains, ça aurait été un échec parce que un prisonnier, ça donne une image désastreuse.
L'armée iranienne a annoncé de son côté avoir détruit 2 hélicoptères et 2 avions de transport américain. Donald Trump s'est lui félicité d'une opération qu'il qualifie d'une des plus audacieuses de l'histoire. Mais pour le général Philippe Sidos, il faut se méfier de ce récit triomphant de Washington.
Il faut se méfier de l'enthousiasme, de l'exaltation qu'il y a autour de cette récupération. Ça se termine très bien pour les Américains. Mais néanmoins, attention, c'est une mission, c'est un fait de guerre. Parmi d'autres, le président Trump n'a pas montré aujourd'hui qu'il avait gardé la tête froide. Et dans une situation militaire, il faut toujours garder la tête froide.
Donald Trump a d'ailleurs prévu de raconter les détails de cette opération lors d'une conférence de presse ce soir dans le bureau ovale en compagnie de représentants de l'armée américaine.
Ouvrez le putain de Détroit, espèce de taré. Enfin, franchement, venant d'un président des États-Unis, je sais pas, ça vous interpelle peut-être, hein, vous souhaitez réagir sur le WhatsApp RMC, vous le pouvez au 0612 424 424 sur cette façon de s'exprimer du président américain. 7h34 sur RMC, un psychiatre du nord de la France soupçonné de 16 viols et agressions sexuelles sur des patientes.
Oui, il a été placé cette semaine en mise en examen cette semaine à Reims pour des faits qui se seraient déroulés dans le Nord, l'Oise et l'Aisne. Et RMC vous le révèle ce matin, cet homme homme de 51 ans s'en est vraisemblablement pris à plusieurs dizaines de victimes supplémentaires dans d'autres départements. Le médecin nie tous les faits qui lui sont reprochés. Un chargeur de téléphone défectueux à l'origine d'un incendie à Paris. Hier midi, 10 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Alfred Orange, le feu a pris au rez-de-chaussée d'un immeuble du 12e arrondissement.
Oui, d'après plusieurs sources à RMC, le feu serait parti d'un téléphone portable en train de charger. Téléphone qui, selon nos confrères du Parisien, aurait incendié le matelas sur lequel il était posé. Les flammes se seraient ensuite propagées dans deux appartements au rez-de-chaussée. Au même moment, deux policiers en patrouille dans la rue sont alertés par les fumées qui sortent des fenêtres. Les fonctionnaires s'engouffrent alors immédiatement dans l'immeuble, prennent l'escalier encore préservé des flammes et montent dans les étages pour évacuer les habitants. Une quinzaine de résidents sont finalement secourus avant que les pompiers, arrivés rapidement sur place, parviennent à éteindre l'incendie.
Ils viennent d'amorcer la dernière ligne droite avant leur vol autour de la Lune. Les astronautes de la mission Artemis 2 sont entrés tôt ce matin dans la sphère lunaire. Ils ont pu observer directement la face cachée du satellite terrestre. Ça n'était encore jamais arrivé. Monaco frappe un grand coup dans la course au podium de Ligue 1 en battant Marseille 2-1 hier soir en clôture de la 28e journée de championnat. L'OM désormais au pied du podium, à la 4e place, à égalité de points avec Monaco. Donc le PSG toujours leader devant Lens et Lille. Après le Milan-San Remo, Tadej Pogacar a remporté le Tour des Flandres hier. Le cycliste slovène poursuit sa quête des 5 monuments de la saison, Maria Azé.
Plus rien n'arrête Tadej Pogacar.
Je suis super heureux. C'est une journée incroyable, un début de saison parfait. Mes concurrents ont couru avec le cœur. C'était une super course.
Face à un tel coureur, difficile pour ses adversaires d'exister. Christophe Laporte, premier Français du Tour des Flandres.
C'est le plus fort, c'est nettement le plus fort. Donc il n'y a pas de tactique qui rentre en jeu quand c'est comme ça. C'est juste les jambes qui parlent et ceux qui peuvent, ils s'accrochent. Et au bout d'un moment, tout le monde craque.
Avec 2 des 5 monuments déjà en poche, le Slovène est bien parti pour remporter les 5 monuments cette saison, ce que personne n'a jamais fait. Son manager Mauro Gianetti.
Chaque jour c'est différent, chaque course c'est différent, les adversaires ils sont pas loin, donc chaque course a son histoire et il faut la courir d'abord.
Car pour faire le grand chelem, Tadej Pogacar devra surtout s'imposer sur Paris-Roubaix, seul monument qui lui échappe encore. Mathieu Van Der Poel, triple vainqueur de l'Enfer du Nord.
Il a déjà montré l'année passée que c'est aussi son terrain, donc il peut gagner partout comme j'ai déjà dit. Ouais, je sais quoi faire.
Pour conserver sa couronne, le petit-fils de Raymond Poulidor devra résister aux attaques du Slovène sur les pavé dimanche.
Le quintet qui se déroule à l'hippodrome de Compiègne à 15h15.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-Loeil de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le 6 Priam du Ménil et son outsider, le 11 Flanker.
Merci Rachel Sadodine, il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on accueille Lounès qui est au 32-16 avec nous depuis les Claës-sous-Bois, c'est dans les Yvelines. Bonjour Lounès.
Bonjour Mathieu, comment allez-vous?
Mathieu, Lounès, il n'y a pas de problème. Vous êtes aide-soignant?
Oui.
Et vous bossez aujourd'hui, hein, les jours fériés,
oui.
Vous ne connaissez pas?
Non, je travaille aujourd'hui, je prends mon service à 9h,
ouais.
Jusqu'à mercredi matin 9h.
Jusqu'à mercredi matin 9h, ouais, et vous nous avez dit aussi, vous avez précisé aussi, Lounès, que vous allez travailler le 1er mai.
Eh oui, j'ai mon planning, oui, je ferai 9-21.
Et ça vous va? Parce qu'on va avoir le débat.
Oui, ça ne me pose pas de problème de travailler.
Vous êtes mieux payé.
Alors oui, le 1er mai, moi je suis payé double.
Double?
Ouais. Donc c'est pas négligeable, hein, les aînés.
Et aujourd'hui non, par contre.
Alors aujourd'hui si, comme c'est férié, on a une prime de 3 heures. Au lieu d'être payé sur 12 heures, on est payé 15 heures.
D'accord. Il y a quand même un intérêt pour vous, Lounès, à travailler les jours fériés. On va avoir ce débat, puisqu'alors on a ce sondage de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui nous apprend que 3 Français sur 4 aimeraient avoir la liberté de travailler le 1er mai. On a ce débat chaque année. Les boulangers fleuristes qui ne sont pas autorisés à faire travailler leurs salariés. On sera avec Louis Sarkozy à 7h50 tout à l'heure. Notre voix de droite du lundi. Louis qui nous dira laisser les Français bosser tout à l'heure. Merci Lounès de votre appel. Hein. Merci de votre appel au 32-16. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire le plein ce week-end? Près d'une station sur 5 en rupture d'au moins un carburant. Est-ce qu'on risque la pénurie? Dans moins de 2 minutes, on est avec le représentant des pétroliers et des raffineurs en direct sur RMC. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue sur RMC et RMC Story. Il est 7h41. Est-ce que vous avez fait le plein ce week-end? Est-ce que vous avez trouvé du carburant? Combien l'avez-vous payé? Est-ce que vous avez réduit votre trajet? C'est possible aussi. Souvent, le lundi de Pâques, dans les matinales, on est avec un chocolatier ou un religieux. Ce matin, on reçoit Olivier Gantois. Vous êtes le président de l'Union française des industries pétrolières. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct en studio. Vous représentez les grands pétroliers et raffineurs, Total, BP, Shell, etc. La question à la une, au sortir de ce week-end de Pâques, c'est celle des pénuries, des tensions dans les stations-service. Qu'en est-il ce matin? Est-ce que de nombreuses stations annoncent des fermetures de pompes?
Alors, on annonce à peu près une station sur cinq dans laquelle il manque au moins un des carburants. Et je dois dire que c'est concentré particulièrement sur un réseau de stations-service, un de mes adhérents, qui a pris des mesures pour plafonner les prix, on s'en souviendra,
Total,
depuis quelques temps.
Total, qui plafonne sans plomb et le gasoil.
Et du coup, ça a exacerbé le phénomène d'achat dans ces stations-service, et donc ce sont plutôt ces stations-service qui sont en rupture aujourd'hui.
Et c'était une question d'approvisionnement. Sur le week-end de Pâques, est-ce que les camions, normalement, ils ne pouvaient pas circuler le dimanche et jour férié? Il y a eu des dérogations? Il y a eu des choses mises en place?
Il y a eu des demandes de dérogation ici et là, qui ont, à ma connaissance, été satisfaites. Les pouvoirs publics étant très réactifs en cette période. Mais il faut savoir que pour faire circuler un camion, il faut non seulement un conducteur qui conduit le camion, mais aussi ouvrir le dépôt de carburant. Donc c'est toute une logistique à mettre en place qui normalement est fermée les jours fériés.
Et sur le côté pénurie, etc., vous dites que ça va aller revenir au calme en sortant du week-end férié?
Alors si j'ose dire, dès demain, ça va s'arranger, ce qui va pas forcément arranger les gens qui reviennent, mais normalement, s'ils cherchent bien, ils vont trouver une station dans laquelle il y a encore le carburant qu'ils cherchent.
Et c'est presque le trio de questions pour démarrer cette interview. On parlait de vendredi d'un gasoil qui pourrait prochainement atteindre les 3 euros. C'est quelque chose que vous avez en ligne de mire, vous ?
Ah, je fais aucune prédiction sur l'augmentation des prix. Pourquoi ? Parce que depuis le début des opérations militaires en Iran, donc le 28 février, le prix du diesel, donc du gasoil, a augmenté déjà de 50 centimes par litre. Donc en moyenne sur la France, il est cette semaine à 2,20 euros le litre, ce qui est un prix très élevé. Il n'y a aucune raison pour laquelle les prix augmenteraient davantage, d'autant qu'on parle maintenant de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, ce qui aura, si ça a vraiment lieu, pour effet de détendre les prix.
Alors, de détendre les prix, sauf qu'il y a des sites énergétiques qui étaient frappés dans le Golfe ces dernières heures. Il y a l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui prévient que les réparations des installations énergétiques seront coûteuses, demanderont beaucoup de temps. Ça donne un peu le sentiment quand même qu'on va continuer à récolter les fruits de cette tempête, si j'ose dire.
Je dirais que là, en tout cas nous, depuis la France, on est un peu dans le brouillard pour savoir exactement quelle est l'étendue des dégâts de ces fameuses attaques sur des installations pétrolières ou gazières. Il n'y a que quand un audit précis aura été fait qu'on saura combien de temps il faut pour les remettre en service. Et quel est le volume d'installations qui prendra plus de temps pour être mis en service. N'oublions pas qu'on a commencé l'année 2026 avec un excédent de production de pétrole brut de 5 à 6 millions de barils par jour. Donc une production largement excédentaire. Ça va au moins compenser une partie de ces pertes de production.
On nous dit que les Français roulent moins, qu'ils réduisent les déplacements, qu'ils roulent moins vite aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le volume des ventes ?
Non, et on ne le constatera pas d'ailleurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de carburant routier est, comme on dit dans notre jargon, inélastique. C'est-à-dire que quand le prix monte, elle baisse pas. Quand le prix baisse, elle ne monte pas. Elle est très stable. Et par exemple, sur le mois de mars, on estime que la demande réelle aura été de 1% supérieure à mars 2025. C'est-à-dire quasiment
supérieur.
Rien. Oui.
D'accord.
Donc on est au même niveau.
Non, mais ça répond à la question du manque à gagner de l'État sur la fiscalité, etc. On a eu ces débats-là. C'est pour ça que c'est important. Vous dites, on constate pas de baisse de la consommation de notre côté.
Non.
Quand on va au boulot, on doit aller au boulot, quoi. Après, certains s'organisent, télétravail, de rouler moins vite, etc. Mais c'est à la marge, c'est ça que vous dites ?
Oui, non seulement en effet parce que les gens ont leur lieu d'habitation, lieu de travail, le transport routier de marchandises séparé, les usines elles n'ont pas bougé parce que le prix du gaz a monté. Et même s'agissant des déplacements de loisirs, la plupart des gens vont maintenir leurs déplacements de loisirs malgré la hausse du prix du gazoil.
Bon, 5 pays de l'Union européenne demandent à la Commission européenne de taxer les super-profits des pétroliers. Les pétroliers, ce sont ces entreprises que vous représentez. Comme ils le sous-entendent, je vais les citer, hein, ces pays européens, est-ce que vous tirez profit des conséquences de la guerre au risque de faire payer le grand public ?
Alors en tout cas, ceux de nos adhérents qui sont présents dans ce qu'on appelle l'amont pétrolier, c'est-à-dire l'extraction de pétrole dans les pays producteurs, leurs revenus vont augmenter en proportion de l'augmentation du prix du baril. Je rappelle que le prix du baril a monté de 40 dollars puisqu'il était à 70 dollars au début des opérations militaires. Il est aujourd'hui à 110. Donc, le prix du baril a monté. Les revenus de ces entreprises ont monté. Je rappelle que au Moyen-Orient, vous avez entre 85 et 95% de ces revenus qui vont aux pays producteurs. Donc une petite part va rester chez nos adhérents.
Non, vous dites effectivement, on suit le cours du pétrole, les profits vont augmenter en fonction du cours du baril. Si je vous suis bien, est-ce qu'il faut faire comme en 2022, une taxe d'urgence similaire avait été mise en place pour faire face à la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Est-ce qu'il faut taxer donc ces surprofits, superprofits, appelez-les comme vous voulez, de vos adhérents?
Ah, c'est une mauvaise idée, je vous surprendrai pas en disant ça, non seulement parce que on trouve qu'il y a aucune raison pour qu'elle soit taxée, mais aussi, surtout, parce que ces profits sont réalisés en dehors de la France et même en dehors de l'Europe. Et on a constaté, lorsque ces taxes avaient été mises en place, que les revenus de ces taxes avaient été relativement faibles, puisque les pays qui les décrètent ne peuvent pas aller taxer des revenus qui ont lieu à l'autre bout du monde.
Oui, d'ailleurs, cette taxe dont on parlait pour 2022 n'avait pas empêché les géants pétroliers mondiaux d'empocher 180 milliards de dollars de bénéfices en 2022.
Oh, je me souviens pas, mais ça m'étonnerait pas que vous ayez raison.
Voilà, tout est normal dans le meilleur des mondes, si je vous suis bien. Vous comprenez que ce soit choquant pour les gens qui sont en train en ce moment de se saigner pour le litre de gaz?
Oui, je comprends que ça les choque, mais la plupart de ces revenus sont réinvestis pour maintenir le niveau de production. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment, pourquoi est-ce que depuis le 28 février, alors que le détroit d'Ormuz est bloqué, donc 20% des approvisionnements mondiaux sont bloqués, les gens continuent à trouver du carburant à la pompe? Parce que nous faisons ce qu'il faut pour approvisionner non seulement en pétrole brut, mais aussi en produits finis, notamment en carburant, dans les stations-service.
Alors nous, je rappelle que vous représentez les grands pétroliers. Nous, il y a peut-être Total derrière notamment. Au début de la guerre, Total Energy, ça c'est une accusation du patron d'Intermarché sur la base d'informations du Financial Times. Total aurait acheté quelques 70 cargaisons de pétrole, l'équivalent de 35 millions de barils, par le seul chemin possible pour le brut, en évitant le détroit d'Ormuz, en passant par les Émirats, un pipeline, et le sud d'Oman, en contournant le détroit d'Ormuz. Une opération de trading, de spéculation à plus d'un milliard de dollars, disent le Financial Times, de bénéfices en quelques semaines. Total gagne un milliard de dollars en spéculant sur le pétrole qui sort du Moyen-Orient.
Ah là, si vous avez une question sur Total, il faut leur poser. J'imagine qu'ils ont répondu, ou sinon qu'il faudra qu'ils répondent sur cette question-là. J'ai pas de commentaire.
Vous n'avez pas de commentaire, mais Total ne nie pas non plus ce procédé. Est-ce que, je vais vous poser une question, vous qui connaissez très bien les marchés, en achetant 35 millions de barils, plus vaste opération jamais réalisée, on fait monter le cours, non?
Ah, je peux pas commenter sur cette opération, je la connais même pas. Donc là, je ferai pas de spéculation là-dessus.
Vous ne voulez pas commenter cette information du Financial Times et cette accusation très grave d'ailleurs d'un distributeur?
Oui, mais de demander à l'entreprise en question de donner des éléments de réponse, c'est pas mon rôle.
Élise, on a pas mal de messages ce matin sur la question des prix des carburants sur le WhatsApp RMC.
Ouais, on a Julien qui nous écrit 1,93€ hier à l'Intermarché du Chazet d'Azergues dans le Rhône. Nous avons aussi Greg sur le samplon 95 à Ribeauvillé dans le Haut-Rhin qui nous dit qu'on était autour des 1,95€ et puis des pénuries, hein, on le disait, une station sur cinq qui manque d'au moins un carburant. Christian l'a constaté hier soir, certaines stations étaient à sec, dit-il, et grâce à l'application RMC, il a pu trouver du carburant et le moins cher près de chez lui. On rappelle cette petite astuce qui peut être utile en ce retour de lundi de Pâques.
Évidemment, l'application RMC et nos auditeurs qui confirment cette information que vous précisiez ce matin, rupture dans une station sur cinq sur un carburant au moins. Olivier Gantois, merci beaucoup. Le diesel qui a pris 50 centimes par litre depuis le début de la guerre. Et puis une taxe sur les super profits, mauvaise idée, dites-vous, en rappelant que ces profits sont réalisés hors de l'Union européenne. Merci Olivier Gantois. Merci d'être venu répondre à nos questions en direct, président de l'Union française des industries pétrolières. Dans un instant, la voix de droite d'RMC, comme tous les lundis, on est avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Mathieu.
Nous sommes le lundi de Pâques et vous travaillez aujourd'hui pour vous. Il faut même laisser les Français bosser le 1er mai.
Et bien sûr qu'il faut laisser les gens bosser, pas seulement les fleuristes et les boulangers, mais tous les Français. Dieu sait que le pays en a besoin.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h52, le bonus avec vous Élise et les Rolling Stones bientôt de retour.
C'est la question ce matin après la découverte dans les rues de Londres d'une mystérieuse campagne d'affichage au nom des cockroaches, les cafards en français, pas de logo, juste un QR code qui mène à un site où l'on peut lire cette question: Who the fuck are the cockroaches? Sur une affiche non pas peinte en noir,
Mais en rose, rose flashy. Et si le monde s'affole, c'est que le nom des Cockroaches, eh bien, c'est celui que prenaient les Stones dans les années 70 pour donner des concerts incognito. L'un d'eux est d'ailleurs devenu mythique, celui dans un petit club de Toronto au Canada en 77. Sur le site, on retrouve un graphisme très similaire à celui d'un célèbre t-shirt de Keith Richards. Et on retrouve aussi les mentions légales qui renvoient vers leur maison de disques Universal.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h52, la voix de droite d'RMC, c'est vous, Louis Sarkozy. Rebonjour Louis.
Rebonjour monsieur.
Près de 3 Français sur 4 qui veulent pouvoir bosser le 1er mai, c'est le résultat d'un sondage commandé par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, pour la Tribune dimanche. Fleuristes et boulangers n'ont pas le droit de faire travailler leurs salariés sous peine d'amende. On a ce débat régulièrement sur RMC. Vous, Louis, ça vous révolte?
Mathieu, j'aime mon pays. Je l'aime profondément. Mais parfois, il est l'hôte d'une bêtise, d'un non-sens stratosphérique. Nous sommes en 2026 et l'État français vous interdit physiquement et juridiquement de gagner votre vie une journée par an, même si vous le voulez, même si vos employés sont d'accord, même si vos clients le demandent, même si le pays en a besoin. Mais c'est désespérant.
Mais ce jour férié, c'est une conquête sociale. Et c'est, par ailleurs, un jour férié historique.
Mais quelle importance, Mathieu. Regardez ce qui arrive à nos artisans. L'année dernière, en Vendée, 5 boulangeries ont été raidées par l'inspection du travail comme s'il s'agissait de repères de trafiquants. Les points de deal, on n'y touche pas, mais le vendeur de pain, le 1er mai, mobilise des dizaines de fonctionnaires.
Le point de deal, on n'y touche pas, mais on ferme les boulangers, quoi. Les inspecteurs, ils font qu'appliquer la loi, faut le dire quand même.
Oui, et malheureusement, la loi française a ici réussi l'exploit d'être orwellienne et kafkaïenne à la fois. Orwellienne, car travailler vous vaut de vous voir infliger 750 euros d'amende par salarié simplement parce qu'un client veut son croissant et que vous avez l'audace de lui vendre. Kafkaïenne, parce que l'absurdité réglementaire et le zèle bureaucratique se marient ici pour maudire le bon sens. L'inspection du travail n'a désormais rien à envier aux automates autoritaires de 1984 et du verdict.
Les syndicats disent que le volontariat n'existe pas, que c'est une pression du patron.
Oui, c'est l'insulte suprême à l'intelligence des Français. Les 18-24 ans sont favorables à 70% à cette liberté. Et pour tous, ils ne sont pas opprimés. Ils sont simplement lucides que les syndicats, pour une fois, les écoutent. Ils voient bien que la France est en train de devenir le parc d'attraction de la paresse en Europe.
Vous exagérez, nous sommes productifs, Louis.
Les chiffres ne mentent pas, cher Mathieu. Pendant que la moyenne européenne culmine à 1784 heures par an, le salarié français à temps complet plafonne à 1664 heures. C'est un gouffre de 120 heures par an, soit 3 semaines de travail, qui nous sépare de nos voisins. La France se classe à la 25e place sur 27 au sein de l'Union européenne pour la durée de travail des salariés à temps complet. Et malgré cette nécessité absolue, malgré le fait que notre modèle social dépende entièrement de ce travail pour être financé, l'État français nous en empêche? Mais comprenez-vous la folie de cette histoire?
D'ailleurs, un projet de loi va être étudié ce vendredi à l'Assemblée pour permettre aux fleuristes et aux boulangers de rester ouverts le 1er mai. Mais pour vous, il faut aller plus loin.
Mais bien évidemment qu'il faut aller plus loin. Laissez les gens bosser. Mais laissez les gens bosser. Laissez les gens libres. Tous les gens, pas que les fleuristes et les boulangers. Qu'il y ait un jour férié, aucun problème. Mais si on souhaite rester ouvert, si on a besoin de plus d'argent pour nourrir sa famille, si on veut s'enrichir, si passer la journée chez soi n'est pas l'étendue de nos ambitions, mais laissez les gens bosser. Et puis définançons ces brigades de repos forcé qui traque le travailleur comme un criminel. Je vous assure qu'on peut sans grand effort, vous et moi, ce matin, trouver une meilleure utilisation pour l'argent des Français.
Vous êtes très dur avec le modèle français ce matin.
Non, Mathieu, c'est l'État qui est dur avec les entrepreneurs. Je suis du côté de la survie. La survie pour les petites et moyennes entreprises. La survie d'un modèle social. La survie de la liberté en France, envers et contre l'État lui-même dans son absurdité, s'il le faut. Laissez les boulangers pétrir, laissez les fleuristes vendre et surtout, cessons cette infantilisation constante de nos concitoyens. Faites confiance aux Français, je vous en supplie. Ils en valent la peine.
Pour vous, il faut que ce soit férié pour les inspecteurs du travail.
Oui, aussi d'ailleurs. Férié toute l'année pour les inspecteurs
Louis
du travail.
Sarkozy, merci beaucoup. La voix de droite du merci, lundi. Mathieu. Demain, c'est Cécile Duflot à votre place. Vous restez bien sur RMC à suivre le journal de 8h, la météo, Charlène Villemer et l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, les plus de 70 ans vont payer plus cher leurs aides à domicile.
Oui, il faut faire des économies dans ce qui est une des plus grosses niches fiscales françaises, mais ça va sans doute coûter un peu d'emploi.
Et ça va faire débat. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure d'un nouveau journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On vous raconte déjà ce matin ce qui va se passer en fin de journée à 400 000 km au-dessus de nos têtes avec la mission Artemis de la NASA qui va faire le tour de la Lune et apercevoir des parties qu'aucun œil humain n'a jamais vues à ce jour. Pendant ce temps sur Terre, une station sur cinq, vous verrez, est en rupture d'au moins un carburant. Donald Trump repousse encore son ultimatum pour débloquer le détroit d'Hormuz. Et on va vous donner toutes les dernières infos sur la tournée événement de Céline Dion à Paris. Vous saurez aujourd'hui si vous avez accès à la prévente et vous verrez qu'il y a des arnaques à éviter.
Et on assiste en temps réel à un grand moment de la conquête spatiale.
Oui, la NASA nous dit ce matin que les quatre astronautes qui se sont envolés vers la Lune la semaine dernière sont entrés tôt ce matin dans la dernière ligne droite. Romain Houk pour RMC. On se passionne pour cette mission Artemis de la NASA. C'est la première depuis plus de 50 ans. Et c'est donc aujourd'hui que les astronautes vont faire le tour de la Lune.
Heures pendant lesquelles les astronautes seront au plus près de la Lune, à environ 6500 km. À titre de comparaison, les pionniers d'Apollo étaient passés, eux, à peine 110 km de la surface lunaire. Mais c'est une mission dont les objectifs sont différents et à cette distance de plusieurs milliers de kilomètres, elle a tout son intérêt. Elle permet à l'équipage d'avoir une vue complète de l'astre, notamment des pôles, et puis surtout d'observer des régions qui n'ont été jusqu'ici prises en photo que par des robots sur la face cachée de la Lune. Là, ce sera un peu le point d'orgue de cette mission, un moment où tout le monde retiendra son souffle puisque derrière la Lune, le vaisseau ne parviendra plus à communiquer avec la Terre. Ce sera silence radio pendant une quarantaine de minutes. La diffusion en live de leur mission sur YouTube sera elle aussi évidemment coupée. Les astronautes devront alors prendre des notes, des photographies de tout ce qu'ils voient afin de les restituer au mieux lorsque les communications reprendront enfin. Ils ont reçu ces dernières années une formation en géologie pour être plus précis, le plus précis possible et ainsi permettre d'en savoir un peu plus, notamment sur la composition et l'histoire de notre satellite.
Et alors évidemment, on vous racontera demain matin sur RMC. Alors depuis là-haut, peut-être qu'ils vont pouvoir nous dire où est-ce qu'il est possible de trouver du carburant ce matin. C'est pas la pénurie, mais écoutez bien quand même, entre vendredi et aujourd'hui, on est passé de 12% à 20% des stations-service dans lesquelles il manque au moins un carburant. C'est ce que vient de nous dire sur RMC le président de l'UFIP, qui est l'Union Française des Industries Pétrolières. Ce sont surtout les stations Total, vous vous en doutez bien, qui sont touchées avec l'opération prix bloqué. Et alors certains sont obligés de faire tout un tour pour trouver essence ou gazole. C'est ce que nous dit Lou Garnier en région parisienne pour RMC.
Dans cette station service, rares sont ceux qui s'arrêtent.
Il n'y a plus rien, vous le voyez bien, il ne reste que du E85, c'est de l'éthanol ça. Voilà ce qui reste.
Mehdi fait le tour des stations Total Energy pour trouver du gasoil. Jusqu'à demain, le litre est bloqué à 2,09€.
Vous voyez, là je suis à Argenteuil, des fois il faut que j'aille à Nanterre. Des fois, il faut que j'aille même sur Paris même.
Une boucle d'une vingtaine de kilomètres.
Vous tournez, vous cherchez une station, donc vous consommez encore plus. Il a explosé, moi, le budget.
Depuis vendredi, Sofiane vient tous les jours dans l'espoir de pouvoir faire le plein. Mais sans succès, avec ce qui lui reste de carburant, il peut faire
20 kilomètres max. J'ai plus de gasoil.
Comment vous allez faire?
Je garde la voiture.
Pour rentrer chez lui, il va devoir prendre le train. À quelques kilomètres de là, Jordan a trouvé une station du groupe avec du carburant.
Kev, combien je mets?
Et ce n'est pas du hasard. Il a téléchargé une application qui lui indique les bonnes adresses.
Elle vous dit s'il y en a, s'il n'y a pas, combien c'est à peu près. On essaye de trouver du gasoil un peu. Là, j'étais à un quart, je suis venu direct.
Son budget essence a augmenté de 300€ ce mois-ci. Il l'avoue, si la situation perdure, il remplira des bidons de carburant pour faire des réserves.
Alors jusqu'à quand ça va durer? Donald Trump repousse encore son ultimatum. L'Iran a jusqu'à précisément la nuit de mardi à mercredi pour débloquer le détroit d'Hormuz. Sinon, Donald Trump promet l'enfer. C'est ce qu'il a dit. On verra s'il tient parole. Ça s'ajoute à la longue liste de messages contradictoires de la part du président américain. Celui-là est truffé d'insultes. Il a écrit ça sur son réseau social. L'Iran, pendant ce temps, menace de représailles, je cite, dévastatrices.
Il est 8h04 sur RMC. On reparle des dégradations à la mairie de Fresnes.
Oui, souvenez-vous des 10 jeunes qui ont été mis en examen la semaine dernière pour avoir saccagé la mairie juste avant le conseil municipal d'installation du nouveau maire de droite dans cette ville de région parisienne. Eh bien, Pierre Bazin, du service police-justice à RMC, parmi eux, deux mineurs ont à nouveau été interpellés. Ils ont caillassé une voiture de police cette fois.
Oui, avant leur nouvelle interpellation, les deux mineurs de 16 ans étaient pourtant sous contrôle judiciaire avec une interdiction de paraître autour de la mairie de Fresnes, d'entrer en contact l'un avec l'autre et surtout, ils étaient soumis à un couvre-feu entre 22h et 7h du matin. Leur placement en garde à vue pour ces faits nouveaux, moins de 24h après leur présentation devant le juge, consterne Frédéric Lecoent. Il est le représentant du syndicat Alliance Police dans le Val-de-Marne.
Le système judiciaire ne permet pas de sanctionner ces mineurs qui ont le sentiment d'impunité.
ce sont des délinquants. Ils ont commis des dégradations extrêmement importantes qui ont occasionné un préjudice de plus de 75 000 euros. Ils ont été déférés le jeudi soir dans le cadre de l'enquête et vous voyez que le lendemain, ces mêmes individus n'ont peur de rien et s'en prennent à mes collègues. Parfois, nous avons même des jeunes qui ont 13, 14 ans. Il faut absolument que ces mineurs retrouvent un cadre. Il faut leur donner des normes et des valeurs.
En attendant d'être jugé le 8 juillet prochain, l'un des deux mineurs mis en cause doit faire l'objet d'un suivi par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
On est lundi matin, il est 8h05. Tendez bien l'oreille si vous voulez des places pour les concerts de Céline Dion à Paris.
C'est la première échéance aujourd'hui pour les 9 millions de personnes qui se sont inscrites au tirage au sort des préventes. Échéance parce que c'est à partir de ce matin que les heureux élus vont savoir s'ils sont retenus pour accéder à ces fameuses préventes pour les 10 concerts de septembre et d'octobre dans la capitale. Amélie Courtet, pour RMC, vous nous donnez toutes les infos, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut éviter aussi.
C'est par mail que les fans tirés au sort recevront la bonne nouvelle, un accès à la prévente des billets pour voir Céline Dion en concert. Prévente qui débutera dès demain 10h, une aubaine pour les arnaqueurs.
On est dans une zone de risque maximale.
Alerte Jérôme Billois, expert en cybersécurité.
Ceux qui ont été présélectionnés vont recevoir un email. Les fraudeurs le savent très bien, donc ils vont eux-mêmes envoyer des emails avec certainement des textes incitant à agir très très rapidement en disant vous avez été sélectionné, vous avez 15 minutes pour valider votre billet. Cliquez ici, mettez votre numéro de carte bancaire.
Déjà, après l'annonce du retour de la star mondiale, des fausses billetteries ont fait leur apparition. Plusieurs fans se sont fait arnaquer des centaines d'euros.
Les fraudeurs sont montés en gamme et leurs arnaques aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à déceler.
Alors comment ne pas se faire avoir ?
Il va falloir être extrêmement attentif sur les adresses d'expédition des mails. Et donc à nouveau, on ne clique pas sur les liens dans les mails, mais on tape soi-même l'adresse des sites officiels qui sont indiqués sur le site de Céline Dion.
C'est-à-dire AXS, Ticketmaster ou Fnac Spectacle. Dessus, il faudra débourser entre 90 et 300 euros pour voir la chanteuse canadienne à Paris, la Défense Arena.
C'est aussi ce matin qu'ouvre la billetterie pour le match de rugby que tout le monde attend. Ce sera dimanche, Bordeaux contre Toulouse en quart de finale de Champions Cup. Une finale avant l'heure en quelque sorte, revanche de l'an passé. Il y a Toulon qui jouera la veille samedi contre Glasgow. L'autre info du jour en rugby, c'est Toulouse qui est convoqué fin mai devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby pour ne pas avoir respecté les règles du plafond salarial sur 3 des 4 dernières saisons, règles ouvertement contestées par Toulouse qui a déjà été sanctionné 3 fois depuis 2023. Et ce matin, je vous signale aussi que Marseille n'est plus sur le podium de la Ligue 1 en football au lendemain de sa défaite de 2-1 à Monaco pour la fin de la 28e journée. C'est Lille qui en profite pour grimper à la 3e place.
Merci beaucoup Quentin Vinet, c'était le journal de 8h sur RMC. Il est presque 8h08 et on retrouve Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour RMC, à tous. Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
C'est l'heure de parler économie et fiscalité. Emmanuel, les aides à domicile vont coûter plus cher aux plus de 70 ans ?
Effectivement, aujourd'hui, à partir de 70 ans, les seniors sont dispensés de payer des cotisations patronales lorsqu'ils emploient des aides à domicile pour faire le repassage, le ménage, le bricolage ou la cuisine, ce qui leur permet d'économiser à peu près 2 à 3 euros par heure employée. Si vous utilisez les services d'une aide à domicile 10 heures par semaine, ça vous fait à peu près 20 à 30 euros par semaine. Mais le gouvernement a décidé d'augmenter cet âge à partir duquel les seniors peuvent bénéficier de cette exonération sans autre condition. Et donc, ce ne serait plus 70 ans, mais il faudrait avoir 80 ans au moins pour bénéficier de cette exonération. C'est une disposition qui est prévue dans la loi de finances pour 2026 et qui va faire l'objet d'un décret dont la publication est imminente.
Mais pourquoi supprimer cet avantage ?
À la base, cette exonération de charges, c'est une aide pour un public fragile en voie de dépendance ou à faibles ressources, mais l'espérance de vie s'est beaucoup allongée et vu qu'elle est sans condition de revenu ni de fragilité, elle profite désormais à beaucoup de retraités en bonne santé qui auraient parfaitement les moyens de se payer des aides à domicile, même sans allègement de cotisation. Alors attention, vous n'êtes pas concerné hein, si vous êtes, par exemple, si vous avez l'allocation handicap, personne handicapée ou des choses comme ça. Mais ce serait quand même à la clé une économie de 100 millions d'euros pour les finances publiques, sachant que les emplois à domicile, hein, c'est quand même la deuxième niche fiscale en termes de coûts, presque 7 milliards, et la neuvième en nombre de bénéficiaires, presque 5 millions de ménages. Alors attention.
Mais oui, c'est surtout le. Pardon.
Non, le dispositif principal, hein, vous savez, de cette aide fiscale qui est le crédit d'impôt de 50% sur les dépenses engagées, tout ça, ça bouge pas. ça représente à peu près 1000 à 1200 euros.
Nous, quand on a une nounou, on paye des cotisations patronales.
Ah bah absolument, vous payez des cotisations patronales. Là, c'est vraiment pour les plus de 70 ans qui ne payaient pas ces cotisations patronales. Bah, si vous utilisez 10 heures par semaine, ça peut faire une somme substantielle. Donc, vous savez à quel point...
La niche, le chien, tout ça.
On sait que ces emplois à domicile sont quand même très sensibles aux aides. Donc forcément, il y aura un petit impact sur l'activité et il y a quand même des ménages qui utiliseront un peu moins ces services.
À suivre. Emmanuel, quelle tendance ce matin pour les prix de l'énergie? Vous surveillez tous les jours et vous nous donnez ces chiffres à 8h?
Bien, le gazole, ça monte. 2,30 € le litre contre 2,26 € vendredi. Le samplon 95, on est à 2,01 € contre 2 vendredi. Le pétrole, ça fait depuis la mi-mars qu'il est dans un couloir de 100-110 €. Là, on était à 109,65 € ce matin, après 3 jours de fermeture et donc 3 jours de non-cotation. Et puis le tarif du gaz, c'est 50 € le mégawatt-heure. C'était 45 là, en fin de semaine dernière. Mais ça reste sous contrôle pour le moment.
Ça reste sous contrôle, mais haut tout ça.
Oui, absolument.
Merci Emmanuel.
On verra si ce soir, on décide cesser le feu. En Iran, là, je peux vous dire...
Ah non, on va faire du teasing sur Donald Trump, va parler, etc. Moi, j'attends qu'il parle.
Ah ouais, on va attendre, mais si jamais il y a quelque chose qui se concrétise, là, on verra.
Ah bah, si jamais.
Donc, regardez, surveillez quand même en cette fin de week-end ce que va dire...
Merci Emmanuel Chiffre. Emmanuel Le Chiffre, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face ce matin, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Et puis juste après, face à Canteloup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h50. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour. Il est 8h14 sur RMC et RMC Story. Et bonjour, Arnaud Demange.
Bonjour, Mathieu Béliard. Bonjour, les petits amis. J'espère que Pâques s'est bien passé. Pâques, donc la fête qui célèbre la résurrection de Jésus, qui a été ramené à la vie par le lapin de Pâques. Et c'est pour ça que on a des œufs dans le jardin. Alors, vous avez peut-être caché des œufs dans le jardin. Les lapins pondent les œufs, c'est bien connu. Moi, j'ai vu le prix du chocolat, j'ai caché directement des billets de banque dans le jardin. Je ne savais pas qu'on importait le chocolat directement depuis le détroit d'Ormuz. On en apprend des trucs. Chez les Le Chypre, on a caché des actions Total Energy dans le jardin, qui est en forme de lapin, en forme de cloche. Le petit Kevin Le Chypre était ravi.
Oh, papa, fallait pas. Vivement les dividendes en janvier prochain.
Oh Kevin, ne sois pas trop gourmand.
Et dans le manoir Béliard,
tiens donc.
Mathieu a proposé à ses enfants un menu pack en 3 itérations. Voyage autour de l'œuf, avec en entrée œuf de poule élevé en introspection, cuit sous foin biologique pendant 63 minutes, nuages de coquilles torréfiées et pluie de sel fossile.
Ça a l'air dégueu.
Non, mon chéri, ne perce pas le jaune tout de suite, laisse-le te raconter son histoire. En plat, déconstruction ovoïde en tension thermique, battue à la japonaise qui nous réinterroge sur le concept même de l'omelette. Et en dessert, œuf inversé, blanc caramélisé, jaune glacé à la spéculation de vanille, pour un plat expérience qui respecte néanmoins toutes les normes européennes sur l'aviculture.
On peut aller à McDo ?
Tu manges ! Tu manges ! Bref, le lundi de Pâques, c'est le premier jour férié du printemps, alors on va pas se mentir, on est un peu moins motivé pour travailler, voilà, on est un peu relâché, personne s'est douché ici, le plateau, on dirait la régie.
Salut
la régie. Et ils ont laissé les lumières allumées, c'est sympa. On m'entend ? Le micro marche toujours ? Oui, le micro marche toujours. Et ce week-end, plus de 13 000 adultes se sont fait baptiser pour Pâques. C'est 28% de plus que l'an passé. Un baptême d'adultes, c'est quand même un peu moins mignon qu'avec un bébé, quoi. Maurice, 53 ans, tout nu dans les bras du prêtre, qui lui plonge la tête dans une piscine d'Oménite. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de prêtres qui essayent d'en profiter de celui-là. Un ancien rugbyman de 53 ans, barbu, qui fait 100 kilos. Bah, si t'essayes qu'une fois, en fait. Tu prends pas de risque.
Bon, le prix des carburants qui continue de flamber.
Oui, on est à plus de 2 € le litre. Mais alors, si t'écoutes les politiques et les industriels, il se passe un truc marrant. Le carburant, ça ne rapporte rien à personne. Non, c'est pas pour nous, non. Rien à l'État, rien aux raffineurs, rien aux distributeurs. C'est vraiment la seule industrie où personne fait jamais de bénéfice. Alors, merci. Merci à tous ces bénévoles de chez Total, BP, Esso, qui se lèvent tôt pour extraire du pétrole, l'exporter, remplir nos réservoirs pour le seul plaisir, le bonheur de voir un sourire sur le visage d'un père de famille quand il fait le plein de la Mégane. Merci aux actionnaires solidaires, merci aux financiers désintéressés qui investissent à perte, Mathieu, dans cette industrie pétrolière pour que on puisse emmener nos gamins au foot, même si tu dois vendre un rein pour faire le plein de la Dacia. Je propose qu'on applaudisse les pétroliers. Bravo. À 20h au
foot. Elle est électrique.
Elle est électrique. Ah, il a trouvé la bonne combine.
Donald Trump a exhorté l'Iran à rouvrir le détroit d'Hormuz en ces termes, je cite, rouvrez ce putain de détroit, espèce de sale bâtard.
Oui, il l'a vraiment dit. Hein,
il l'a vraiment, ouais, on hein, traduit comme on veut, les bâtards, les tarés, c'est un langage de président.
Bastards. Quand on pense qu'on s'emmerdait à un point délirant en diplomatie avant, tous les diplomates se prenaient la tête. Est-ce que tu crois, si on dit nous demandons à la grande civilisation iranienne de réfléchir aux conséquences des blocages d'un détroit essentiel pour la coopération mondiale, c'est peut-être un peu agressif, non, je sais pas, peut-être nous alertons la civilisation. Bah Trump, il s'emmerde pas. Bande de connards, rouvrez ça tout de suite. Et derrière, il y a BFM qui doit commenter ça. Imaginez où ils en seront dans 2 mois. Hein. Et Donald Trump qui vient de déclarer que ses couilles molles d'Iraniens doivent rouvrir ce détroit de merde. Des propos qui ont fait bondir plusieurs généraux américains. Et alors on le voit à l'image, hein, le président les a réunis à la Maison Blanche et il est en train de leur uriner dessus. Général Pellistrandi. Oui, une image qui rappelle celle du mois de mai. Hein. On se souvient que le président avait reniflé et craché un gros molard jaune sur la cravate du secrétaire général de l'OTAN. Oui, alors que peut-on déduire de ce geste ? Probablement un début de rupture diplomatique. Ah oui, priorité au direct. J.D. Vance est en train de faire l'hélicobite à l'ONU. Est-ce qu'on peut y voir un signe de détente ? Alors bref, Trump a annoncé qu'il allait bombarder l'Iran demain si le détroit d'Hormuz n'était pas rouvert. Il y a 2 jours, il nous disait que la guerre était finie. 2 jours avant, il voulait envoyer des troupes au sol. 2 jours encore avant, la guerre était finie. Trump, c'est Philippe Catherine, quoi. Nous regarder faire la guerre. Et je coupe la guerre. Et je remets la guerre. Et je coupe la guerre. Et je remets la guerre.
Wow.
Et bon lundi.
Ah ouais. Bon lundi, là oui, il y a une grosse production hein, pour un Jean Perrier. Merci Arnaud. Arnaud qu'on retrouve en podcast et en tournée bien sûr dans toute la France. On va accueillir Cathy qui est en ligne avec nous dans les Alpes-Maritimes et qui réagit à notre voix de droite, Louis Sarkozy à 7h50 tout à l'heure. 3 Français sur 4 qui voudraient avoir la liberté de travailler le 1er mai, sondage de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour Cathy, vous êtes fleuriste.
Bonjour.
Tiens. Voilà, vous étiez au cœur de ce débat. Les boulangers et les fleuristes étaient au cœur de ce débat depuis de nombreux mois, Cathy. Vous êtes à votre compte ou vous êtes salarié ?
Non, je suis à mon compte et j'ai des salariés.
Vous êtes à votre compte, vous avez des salariés. Et vous ne pouvez pas ouvrir parce que vous ne pouvez pas faire travailler vos salariés.
Alors, vous savez, à Nice, on appelle ça, moi, il me vient la stoufia ou la bouffaïs. C'est-à-dire qu'on en a un peu marre de ces discours faits par des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'artisanat, que ce soit nous, les fleuristes ou les boulangers, qui ne savent pas ce que c'est que se lever. Par contre, on autorise en France, ce jour-là, les vendeurs à la sauvette qui, eux, ne vont pas payer d'URSSAF, n'ont pas d'employés, ne vont pas reverser la TVA. Et nous, qui travaillons toute l'année, qui faisons travailler toute une chaîne, que ce soit nos employés, que ce soit les horticulteurs, nous, ce jour-là, on dit « Ah non, madame, vous pouvez pas travailler ». Alors, faut arrêter, on marche sur la tête.
Traditionnellement, on allait ramasser le muguet qu'on avait cueilli. Alors, je sais que j'ai une vision un peu bucolique de l'histoire. Et c'était, en général, il n'y a que le Parti communiste qui avait le droit de travailler le 1er mai.
Exactement.
Ah, ouais. Curieux. Enfin, ça, c'est au siècle dernier. Parce que maintenant, vous savez que c'est des filières entières de gens qui achètent le muguet chez les grossistes et qui le vendent devant. Moi, ça m'est arrivé devant mon magasin de devoir faire intervenir la police municipale pour faire. Alors, vous devez déambuler, vous ne devez pas être fixe. Et c'était pour gagner 3 francs 6 sous. Maintenant, il faut savoir que quand même, les gens qui vendent du muguet, c'est des bancs entiers. Et
je ne savais pas, il faut quand on installe une table, machin, qu'on est branché et tout, ça c'est interdit.
Vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Par contre, c'est compliqué de faire intervenir quelqu'un parce que l'inspection du travail, le 1er mai, ils sont capables de venir dans vos magasins, d'aller dans les boulangeries. Mais ils ne sont pas capables d'aller voir les vendeurs à la sauvette.
Non mais Cathy, alors on va réviser les règles des vendeurs à la sauvette. Et en tout cas, le 1er mai, c'est le prochain jour férié. C'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. C'était dans la tribune dimanche hier, que ce sondage de la CPME. Dites-nous au 32-16. Alors Cathy est fleuriste, c'est sa boutique. les salariés. Dites-nous la question du volontariat qui est quand même posée aussi. On va en débattre. On vous attend au 32-16. N'hésitez surtout pas. 8h22 dans un instant sur RMC BFM TV. L'invité de Guillaume Daret, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. C'est le face-à-face.
Merci d'écouter RMC. 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Rachel Sadodine.
Donald Trump repousse à nouveau son ultimatum. Il laisse 24 heures de plus à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Hormuz. Et si les Iraniens n'obtempèrent pas, c'est simple. Le président américain menace de tout faire sauter. Donald Trump qui multiplie les insultes sur les réseaux sociaux. L'Iran répond ce matin affirmant qu'attaquer des sites civils relèverait du crime de guerre. Le chausseur Minelli à nouveau placé en redressement judiciaire. 2 ans et demi après une procédure identique qui avait conduit à la suppression de 400 emplois et à la reprise de l'entreprise. 200 employés risquent actuellement leur poste. La mission Artemis est entrée ce matin dans sa dernière ligne droite. Les 4 astronautes sont désormais dans la sphère d'influence de la Lune et devraient voir aujourd'hui la face cachée de notre satellite. Une première pour l'homme. C'est l'heure de vérité pour les fans de Céline Dion. Vous êtes 9 millions à vous être inscrits pour espérer pouvoir participer aux préventes et ainsi peut-être décrocher un ticket pour l'un des 10 concerts que donnera la star cet automne à l'Accor Arena de Paris. Si vous êtes tiré au sort. Seulement, les mails vont commencer à arriver aujourd'hui. Marseille, battu 2-1 par Monaco en clôture de la 28e journée de Ligue 1 de football. Coup dur pour les footballeurs marseillais qui perdent leur place sur le podium provisoire. Ils sont 4e ex aequo au nombre de points avec donc Monaco. La météo, l'anticyclone gonfle sur la France avec un temps calme et ensoleillé. L'après-midi sera très douce sur l'ensemble du pays. Entre 15 et 23 degrés au nord, jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest, la maximale pour Biarritz.
C'était le rappel des titres de Rachel Sadodine. Dans un instant, l'ancien commissaire européen Thierry Breton, l'invité de Guillaume Daret dans le face-à-face sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face-à-face.
Bonjour à tous, il est 8h29, vous êtes sur BFM TV RMC. Mon invité ce matin, c'est Thierry Breton. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Alors Donald Trump, le président américain, va tenir ce soir à 19h une conférence de presse depuis la Maison Blanche. Une conférence de presse, bien sûr, à suivre en direct sur BFM TV. Est-ce que Donald Trump peut tirer profit politiquement de l'incroyable opération de sauvetage des 2 pilotes américains dont l'avion avait été abattu en fin de semaine dernière?
Pour lui, cette opération, qui était encore une fois nécessaire. Elle est nécessaire parce que, encore une fois, dans la doctrine américaine de l'engagement de combat, quand un pilote tombe derrière les lignes, on va toujours le rechercher. Donc, il n'avait pas le choix. Mais vous avez raison, c'était un peu politiquement, on va dire, qui tout double. Alors, il faut se réjouir, évidemment, que les forces américaines, dans une opération tout à fait exceptionnelle, n'en doutons pas, elle donnera certainement lieu à un nouveau blockbuster à Hollywood dans quelques années. Vous vous souvenez, comme alors quand la pièce était tombée du mauvais côté, la chute du Faucon Noir en Somalie, absolument, à Mogadiscio, avait été aussi un blockbuster. Parce qu'au fond, ça c'est l'Amérique triomphante, l'Amérique qui gagne, mais c'est l'Amérique qui gagne sur une opération ponctuelle. Alors bien sûr, ça lui ouvre un espace politique. Il aurait pu, si jamais, et on se réjouit encore une fois que ça n'ait pas été le cas, le pilote n'avait pas été retrouvé ou il avait été emprisonné par les Iraniens, on imagine le drame et le traumatisme que ça aurait créé aux États-Unis, mais dans le monde aussi. Bon, c'est tombé du bon côté, on s'en réjouit. Il a donc une fenêtre politique. La question, c'est de savoir ce qu'il va en faire. Alors il y a cette conférence de presse, vous avez raison. N'en doutons pas, il va certainement glorifier... Alors, à juste titre, ce qui s'est passé, on va avoir sans doute moult détails. Maintenant, pour le reste, la guerre est toujours là.
Et justement, dans le même temps, Donald Trump a repoussé à mardi soir l'ultimatum qu'il avait fixé à Téhéran pour ouvrir le détroit d'Hormuz, sans quoi il menace, je cite, de déchaîner les enfers sur l'Iran. Comment comprendre le nouveau report de cet ultimatum? Il avait déjà été reporté de 10 jours. Comment interpréter cela? Est-ce que c'est un signe de faiblesse du président américain?
Mais Guillaume Daret, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont les clés, et je vais le dire de façon très simple et avec le plus de hauteur de vue possible, ce sont les Iraniens, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont ce matin à votre micro. On avait imaginé que cette opération, dont personne du reste n'a très bien compris les buts de guerre américains. On connaît parfaitement les buts de guerre israéliens, on les comprend. Israël était dans le collimateur, si je puis dire, des Iraniens depuis maintenant des dizaines d'années. Bon, très bien, ils avaient juré leur perte, donc ils avaient intérêt évidemment à mener une guerre pour se défendre. Mais les États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, si ce n'est répondre à la sollicitation de Benjamin Netanyahou. Tout le monde le sait maintenant, c'est ça ce qui s'est passé. Les buts de guerre, ils changent tous les deux jours. Donc évidemment, les Iraniens, ils se sont maintenant organisés. On se rend compte, peut-être un peu tard, que depuis 40 ans, ils se préparaient à ça. Ils sont organisés un peu en alvéole. Oui, bien sûr, il y a eu, je dirais, cette décapitation au plus haut sommet de cet état mollah, dont on veut tous, du reste, qu'il disparaisse, bien entendu. Est-ce qu'il a disparu, Guillaume Daré? Non, mais il est toujours là.
Comment comprendre ce, si j'ose dire, ce pas de deux permanent de la part du président américain entre la foi, la menace de faire déferler un enfer sur l'Iran et en même temps le fait de dire qu'un accord n'a jamais été aussi proche?
Mais il faut jamais écouter, encore une fois, il parle aussi au marché, on va y revenir dans un instant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Iraniens se sont organisés et ils sont pas seuls. On s'en rend compte maintenant.
Qu'est-ce qu'on voit? Ils sont autour d'une nouvelle alliance?
Mais bien entendu, cette nouvelle alliance, elle est avec qui? Avec ceux qui soutiennent l'Iran. Comment l'Iran fait-elle pour continuer à renouveler en permanence ses stocks de missiles? Ils en fabriquent à peu près 100 par mois. Comment l'Iran fait-elle pour renouveler en permanence ses stocks très abondants de drones? Ils en fabriquent des centaines, voire des milliers.
Une alliance avec qui?
Avec la Chine, bien entendu. C'est la Chine qui fournit l'ensemble des composants, en particulier le propergol, c'est-à-dire ceux qui vont permettre aux missiles d'être propulsés. C'est la Chine qui fournit les composants électroniques, qu'ils ont du reste été bien souvent dérivés technologies duales d'entreprises occidentales. C'est la Russie qui fournit le savoir-faire maintenant extrêmement sophistiqué sur les drones. C'est la Chine qui fournit les systèmes qui vont permettre de guider ces missiles, notamment à travers l'entreprise Baidu, c'est l'équivalent de notre GPS. C'est la Corée du Nord qui fournit l'architecture et le savoir-faire en matière balistique. Donc oui, tout ça aujourd'hui est en train de s'organiser. J'ajoute que le détroit d'Ormuz, il n'est pas fermé pour tout le monde. Puisque le détroit d'Ormuz, désormais, il y a une diplomatie qui se remet en place dans la région maintenant, mais autour de l'Iran. L'Iran vient de négocier avec, tenez-vous bien, les Philippines, si proches des États-Unis, avec la Thaïlande, avec le Vietnam, tout simplement pour refaire passer les bateaux. Et on voit qu'il y a cette diplomatie qui se remet en place. Et aujourd'hui, force est de constater que ceux qui ont les clés, et je le dis, ça ne me réjouit pas, c'est plutôt l'Iran.
Mais alors attendez, je vous arrête une seconde sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire quoi? Que l'Iran, paradoxalement, même si ce pays est frappé depuis des semaines, est désormais politiquement plus fort qu'avant la guerre?
Eh ben, en tout état de cause, l'Iran est rentré dans une guerre qu'on appelle la guerre asymétrique. C'est-à-dire que, bien entendu, en face, on a les meilleures armées du monde, la meilleure armée du monde, on a les meilleures technologies du monde. Et on l'a vu encore une fois pendant le week-end pour aller récupérer ce colonel derrière les lignes. Mais derrière, on a effectivement, pour se défendre, les missiles Patriot, vous savez, tout le monde en a entendu parler. Ça coûte entre 1 et 2 millions d'euros, de dollars, pardon, pour taper, ou pour faire abattre des drones à 30 000 dollars. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Les réserves sont en train de s'amoindrir. Aujourd'hui, songez que depuis le début des hostilités, c'est 2 années de fabrication des Patriotes qui ont été consommées. Et le Pentagone commence à s'inquiéter. Les réserves sont en train de faiblir. Et pendant ce temps-là, l'Iran est dans une logique de flux. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. L'Iran s'y est préparé. Donc oui, il est temps pour Donald Trump, qui par ailleurs est sous pression, sous une très forte pression aux États-Unis, en particulier de la part des électeurs et en particulier de la part des consommateurs.
Des électeurs, est-ce qu'il est sous la pression des militaires aussi? Est-ce que ces hésitations que l'on voit, ça témoigne d'une lutte en coulisses entre d'une part les politiques et d'autre part les militaires?
Mais tout ce dont on parle ce matin ensemble, Guillaume Daré, les militaires le savent bien mieux que vous et moi. Évidemment, ils n'étaient pas pour cette guerre. Ils savent, vous savez, à Washington, on dit une chose, ça m'avait beaucoup marqué. Maintenant, je peux plus aller, hélas, pour quelque temps aux États-Unis. Je le regrette, du reste.
Interdit de territoire par les Américains.
Mais du temps où j'y allais souvent, je voyais souvent les think tanks, et ils disaient, vous savez, le problème des guerres éclairs, c'est les 3 premières années. On sait aux États-Unis que quand on se lance dans une guerre éclair, c'est jamais de bon adage. Et donc, effectivement, les militaires américains n'étaient pas pour. Du reste, ceux qui manifestent, je dirais, leur inquiétude ou leur velléité de ne pas suivre les foucades du président américain, je pense en particulier au chef d'état-major de l'armée de terre,
virés,
sont limogés.
Absolument.
Donc, voilà. Donc les militaires, eux... Alors, la bonne nouvelle, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que comme Donald Trump vient incontestablement de remporter, un succès politique aujourd'hui, parce que l'effet drapeau aux États-Unis, ça compte. Et le fait qu'on ait réussi à sauver ce colonel de l'armée de l'air, c'est très important. Ça remet les militaires militaire, je dirais, au centre du jeu. La chef de cabinet, Madame Wills, qui semble être l'adulte dans la place, dans la place, peut-être la seule du reste, veille désormais à ce que ceux qui savent puissent rencontrer le président des États-Unis. Les militaires sont maintenant, je dirais, remontés d'un cran, puisque encore une fois, ils ont réussi cette opération. J'espère qu'ils sauront convaincre le président des États-Unis qu'il vaudrait mieux maintenant arriver à un cessez-le-feu plutôt que ces foucades qui n'ont strictement aucun sens. Parce qu'encore une fois, si jamais il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il commence à détruire et les ponts et les centrales électriques, on rentre dans des zones grises, celles des crimes contre l'humanité. Il faut faire très attention. Et il faut être bien conscient que les Iraniens ont démontré de façon très précise qu'ils vont taper en réciprocité, et là, peut-être dans des usines de dessalement, dans des infrastructures qui sont des infrastructures civiles, et ce serait évidemment l'embrasement. Il faut tout faire, évidemment, pour l'éviter. Et il faut vraiment qu'on puisse jouer, et nous, les Européens, de toute notre force diplomatique pour éviter cet
affrontement. On va venir au rôle de la France, mais effectivement, vous le disiez à l'instant, sur le terrain, aucun signe de désescalade, puisque ce matin, encore, Téhéran a visé avec ses missiles et ses drones Israël, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. Quand vous dites qu'il faut qu'ils trouvent une porte de sortie, est-ce que c'est parce qu'à vos yeux, aujourd'hui, c'est une guerre ingagnable pour les États-Unis?
C'est une guerre asymétrique, je l'ai dit. D'un côté, vous avez effectivement les Iraniens, et il faut toujours les dire désormais, et ses alliés, car ses alliés sont là. Donc encore une fois, c'est beaucoup plus que les Iraniens. Donc ils se sont organisés sur un temps long et dans ce conflit asymétrique, c'est-à-dire une guerre de flux d'un côté contre une guerre de stock de l'autre côté. Ben vous savez, l'histoire nous apprend que dans ce cas-là, ceux qui ont l'horloge en main, ben ce sont plus les États-Unis, c'est l'Iran. L'Iran s'est organisé. Ils sont organisés sur un temps long. Et la guerre asymétrique, ça a aussi des impacts très forts dans les populations, sur l'économie. Le gallon à 4,10 $ aujourd'hui aux États-Unis. Songez que le prix de l'essence aux États-Unis, il a monté de 45% depuis le début des hostilités.
15% pour la France, effectivement, c'est beaucoup plus aux États-Unis. Vous parliez de la position, effectivement, de la communauté internationale. Est-ce que le président français Emmanuel Macron a raison de rester à distance, de marteler que ça n'est pas notre guerre, quitte à être pris pour cible par Donald Trump, qui juge que la France n'est pas assez coopérative?
Oui, il faut arrêter de rester pris pour cible. Je suis bien placé pour le savoir. Il faut continuer à faire ce qu'on a à faire et à dire ce qu'on a à dire, car encore une fois, la démocratie, c'est ça. Le président de la République, il a eu parfaitement raison. Il a eu encore une fois un comportement qui a été le comportement, à mon avis, qui était absolument celui que nous devions avoir. Je rappelle que nous avons envoyé en Méditerranée septentrionale, au large des côtes chypriotes, le porte-avions Charles de Gaulle, plus, encore une fois, une escadre de destroyers qui sont européens. Et pourquoi, Guillaume Daret? Parce que, voyez-vous, pour nous, Européens, la parole, ça compte. Nous, on tient nos engagements. Nous avons un engagement entre nous qui s'appelle l'article 42.7 des traités. Quand un pays européen est attaqué, or Chypre a été attaqué par des missiles, on doit aller le défendre. Quand des pays avec lesquels nous avons des alliances, je pense en particulier des pays du Golfe et les Émiratis, sont attaqués, nous avons des alliances. On respecte les alliances. Eh bien, les États-Unis aujourd'hui, croyez-moi, désormais, on s'interroge vraiment sur leur capacité à les tenir. C'est ça le monde qui se recompose. Donc oui, nous avons une place à jouer et nous la jouons. Mais encore une fois, là où on est, c'est vrai, on n'a pas du tout.
Mais nous sommes toujours les alliés des États-Unis.
Bien entendu, nous sommes les alliés, en particulier dans le sein de l'OTAN. Mais il faut se faire respecter, faire entendre. Allié, Guillaume Daret, ça ne veut pas dire vassal.
Vous évoquiez il y a quelques instants évidemment les conséquences économiques. D'après un calcul de l'AFP hier, le prix du diesel moyen en France c'était 2,30 €. Certains ont du mal à employer ce mot-là. Roland Lescure, le ministre de l'économie, est revenu sur une déclaration. Est-ce que pour vous, oui ou non, c'est un choc pétrolier?
Vous savez, les chocs pétroliers, on est aujourd'hui à un prix du baril qui est à 1,10, 1,12, je crois, ce matin. Tant qu'on n'est pas en dessous d'un 20, les choses, on va pouvoir les gérer. À partir d'un 20, on rentre un peu dans un autre monde. Donc on n'est pas très loin.
Autour des 110 dollars ce matin, effectivement.
Voilà, 110. Hein. Donc on est à 110, un petit peu au-dessus. À 120, ça commence à devenir effectivement...
C'est une crise durable parce qu'on voit les pays du Golfe qui disent il va nous falloir des semaines, des mois pour reconstruire justement les installations qui ont été touchées. Est-ce que les Français qui nous écoutent doivent se préparer à des mois payer un prix du diesel à plus de 2,30 €?
Eh bien, on l'espère tous que non. Et cette crise, elle est due par la faute, ou je dirais l'origine, c'est qui? C'est un homme. Cet homme s'appelle Donald Trump. C'est une crise qui est une crise artificielle. Parce qu'encore une fois, la production, elle est là.
Sauf que nous en payons tous le prix aujourd'hui.
On a payé tous le prix. Et c'est la raison pour laquelle il est temps, je dirais, de revenir à la raison. Alors encore une fois, on est tous pour que ce régime des mollahs tombe, bien entendu. Mais on voit qu'il s'est organisé. Il faut maintenant, évidemment, appeler un cessez-le-feu. Je pense que c'est ça, évidemment, la bonne démarche. On commence à en parler.
On parle effectivement d'un projet de travail de 45 jours pour négocier une paix durable ensuite.
Mais je le répète, encore une fois, celui qui a les clés s'appelle Donald Trump. Il est lui. Alors, avant de parler peut-être, alors on est très concerné. Vous parlez de 2,30€. J'étais dans la Creuse la semaine dernière. J'ai vu effectivement sur l'autoroute certaines stations à 2,40€. Tenez-vous bien pour le gasoil.
Certains parlent même peut-être d'un prix du gasoil à 3€ dans quelques jours, dans quelques semaines. Face à cette crise, le gouvernement promet de nouvelles aides en ce début de semaine. Il y a déjà eu des aides ciblées, un paquet de 70 millions d'euros. Le RN réclame la baisse des taxes. La France Insoumise, le blocage des prix. C'est quoi la bonne solution pour vous ?
Il n'y a qu'une seule solution, Guillaume Daré. C'est le fait que tout ce que l'État va gagner, entre guillemets, grâce à cette crise ou à cause de cette crise, notamment parce qu'il va gagner un peu de TVA, soit restitué à l'euro près à ceux qui en ont le plus besoin. J'ai fait les calculs.
Le gouvernement dit on a gagné un peu plus de 230 millions, mais on en a perdu plus de 400 également.
J'ai fait les calculs, le gouvernement a raison, donc ces 230 millions, il faut les restituer. Ça crée une enveloppe pour qui ? Évidemment pour ceux qui en ont le plus besoin, les agriculteurs, les marins-pêcheurs, bien sûr tous ceux qui ont besoin de leur voiture, on pense en particulier à ceux qui ont un besoin pour aller travailler.
Les infirmières libérales,
Les infirmières libérales, ceux qui vont aider.
Mais pas d'aide générale.
L'aide générale, certainement pas. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a plus les moyens. Parce qu'on a juste plus les moyens. On est aujourd'hui le pays qui devient le pays le plus endetté, bien en valeur, ça c'est certain, d'Europe, et bientôt également en pourcentage. On est le seul pays des pays européens qui n'arrive pas à avoir un budget en dessous de 5% de déficit. C'est-à-dire créer 170 milliards de plus de dépenses tous les ans que ce qu'on gagne. C'est juste plus possible.
On n'a pas les moyens, mais ceux qui nous écoutent disent, on n'a pas les moyens de peut-être remplir, le plein d'essence, tout à l'heure, quand on va aller à la station-service.
C'est la raison pour laquelle il faut être sélectif. Nous sommes évidemment un peuple. Il faut être attentif à ceux qui en ont le plus besoin. Il y en a d'autres qui peuvent faire des efforts. Il faut être sélectif. J'ajoute...
Rigoureux sur le plan économique en même temps, c'est ce que vous dites.
Mais bien entendu. Mais pourquoi ?
Avec une règle particulière sur le déficit.
Mais c'est la raison pour laquelle je pousse moi-même, parce qu'encore une fois, la France n'est plus capable depuis maintenant des années de tenir ses engagements, de tenir, encore une fois, sa parole. Donc, je propose le fait que pour la prochaine présidentielle, on serait tous d'accord, comme les Allemands l'ont fait en 2009, pour nous obliger, à l'horizon 2032, c'est pas demain, de limiter notre déficit à 1% de déficit, de façon à redonner la crédibilité dont la France a besoin pour pouvoir exister vis-à-vis de ses partenaires, mais aussi vis-à-vis des marchés financiers. Songez aujourd'hui qu'on va avoir 100 milliards par an d'intérêts à payer, et on les paye aujourd'hui 80 points de base de plus que l'Allemagne, tout simplement parce qu'on est incapable, il y a une prime de risque sur la France, parce qu'elle est incapable de tenir ses budgets. Donc c'est la proposition que je fais, c'est une proposition qui n'est absolument pas une proposition très contraignante, elle est très étalée dans le temps, mais elle nous redonnera la crédibilité pour que la France retrouve sa parole et maîtrise son destin.
Est-ce que l'État est un profiteur de guerre, comme le dénonce Marine Le Pen ?
Certainement pas, et je suis tout à fait contre ce type de mots excessifs. L'État n'est pas un profiteur de guerre, l'État a démontré qu'il était capable de le faire, il en a du reste un peu trop fait. Songez que la dernière crise, c'était 70 milliards qu'on a donné, vous vous souvenez, pour faire face au choc énergétique. Les Français n'en sont pas très reconnaissants, mais par contre, le déficit et la dette, elle est là. Donc non, l'État n'est absolument pas un profiteur de guerre. Je crois que on a réussi maintenant, avec les instruments qui sont les nôtres, à expliquer que les surplus qui sont créés vont être redistribués à l'euro près à l'ensemble de celles et ceux qui en ont le plus besoin. J'ajoute que pour les compagnies pétrolières, il est hors de question, évidemment, qu'il y a aussi de l'enrichissement indu. Donc il faudra aussi, je salue du reste les efforts qu'on fait Total et tout le monde l'apprécie, donc faire en sorte que quand on a un peu de surplus, eh bien on l'utilise pour pouvoir faire en sorte là aussi d'aider celles et ceux qui
Thierry
en ont
Breton,
besoin.
Thierry Breton, jamais une campagne présidentielle probablement ne sera déroulée dans un tel climat d'incertitude. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre et qu'est-ce que ça dit de la campagne que nous allons vivre dans les prochains mois ?
Eh bien ça dit que plutôt que d'essayer de savoir qui sera celle ou celui qui sera l'homme providentiel ou la femme providentielle, commençons par travailler sur un projet providentiel, un projet qui nous réunisse plutôt qu'il nous divise. Modestement, c'est précisément ce à quoi je m'attelle avec cette proposition.
Vous allez y vous prendre votre part à ce débat sur présidentiel.
Sur le projet, oui, parce que je suis concerné. Il se trouve que là aussi, j'ai cette expérience. J'ai baissé l'endettement de la France avec Jean-François Copé lorsque nous étions aux affaires. On sait comment faire. Non pas parce qu'il faut le refaire nous-mêmes, mais tout simplement parce que de cette expérience, on a appris ce qu'il fallait faire pour remettre la France sur les rails qui en a tant besoin.
Vous avez des contacts avec les différents candidats ou c'est vous qui pourriez porter cette proposition et ces propositions-là.
J'ai des contacts avec les différents candidats et je les et je les vois tous, et je, les uns après les autres. Eh bien, je le dirai. Je ne suis pas là pour faire du name dropping, comme on dit. Mais croyez-moi, je les vois et j'essaie de leur expliquer encore une fois la raison pour laquelle il me semble que sur cette question-là, nous devrions créer une union sacrée, parce que c'est la seule façon dont la France pourra, me semble-t-il, remaîtriser son destin.
Vous pourriez vous lancer dans une candidature à l'élection présidentielle poser vos propositions sur la table ?
Guillaume Darré, je suis en train de vous dire que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est le programme providentiel. C'est là où, modestement, je vais tout faire pour apporter ma contribution dans les finances publiques et puis dans ce que je connais bien aussi, c'est la place de la France dans l'Europe.
Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été notre invité ce matin sur BFM TV et RMC.
Ne bougez pas sur RMC, dans un instant face à Canteloup, et en ce lundi de Pâques, Nicolas Canteloup revient sur l'actualité politique de ces dernières semaines.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et cette semaine, Nicolas Canteloup, vous revenez sur le nom choisi par Emmanuel Macron pour le nouveau porte-avions français.
Bonjour à tous, à celles et ceux sous et celles qui sont amis du porte-avions, oui. Et bonjour à vous, chère Arlette Chabot.
Oh bah non, c'est un peu une erreur.
Hein? Non. Ah oui, pardon. Non, parce que comme des millions de Français, j'ai suivi le débat que vous avez brillamment animé hier soir. Et c'est vrai que vous étiez toute fraîche hier soir. Et je n'ai pas les mots. D'habitude, j'ai un champ lexical très large, mais là, les deux mots qui me viennent, c'est juste Arlette et Chabot. Voilà. Bref. Vous avez vu le nom que j'ai trouvé pour notre nouveau porte-avions, le France Libre, hein, qui évoque bien sûr la liberté, un navire qui viendra au secours des pays opprimés, et du coup nous aurons également un nouvel hymne. Libéré. Oui, on s'adapte.
Alors vous avez fait part de votre mécontentement hier au sujet des municipales, vous avez critiqué les arrangements entre partis.
Non mais écoutez, que vous votiez comme des cons, ça j'ai l'habitude. Après tout, si ça vous amuse de mettre des insoumis à Roubaix, pourquoi pas, ça vous regarde. Moi, c'est pas moi qui vis là-bas, hein, de toute façon. Mais par contre, ne magouillez pas de cette façon, les partis, je vous le dis, les partis, ça fait tambouille, c'est ridicule. Mais oui, quand on a un résultat électoral qui ne vous plaît pas, c'est pas compliqué, vous faites comme moi, vous l'ignorez.
Ah oui. Chez les socialistes, l'ambiance est explosive hein, suite à la stratégie d'Olivier Faure pour les municipales.
Oui.
François Hollande, tiens, vous êtes très sévère avec son idée de s'allier aux insoumis. Hein.
Je pense, Madame Bayrem, je dis en face, Robert Bidard, pour qui je respecte, je pense que le premier secrétaire socialiste a fauté. Olivier Faure, oui. Vous savez, Madame Malherbe, en ce jour très particulier, je suis néanmoins, je dois vous le dire, affecté. Je suis dans l'émotion, dans le deuil.
Dans le deuil, j'imagine, bien sûr, affecté par la disparition de Lionel Jospin.
Mais non, mais ça, je m'en fous. Il est mort le 21 avril 2002, Jospin. J'ai eu le temps d'encaisser. J'ai eu une épée. Rappelez-vous que j'ai été président de la République. Chose que j'aime à rappeler dans toutes mes interviews. Non, ce qui m'affecte, c'est que Tulle a basculé à droite. Et Tulle, c'est quand même pas rien. Et Tulle, allons, Tulle, c'est la préfecture de la Corrèze, la capitale de la Hollandie, principauté de Hollande. Pour un week-end, n'avez-vous jamais hésité, Mme Malherbe, entre Rome, Venise ou Tulle?
Non, j'avoue, non, j'ai pas hésité, non.
Oui, bah vous, en même temps, vous aimez aller au Mans. Donc, vous n'y connaissez rien en ville tendance.
Ça doit être ça. 60% des 25-34 ans n'ont pas voté au municipal.
Eh bien, je dis merci les jeunes. Bravo les kids.
Oh, Edouard Balladur. Bah, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu.
Oui, mais écoutez, j'étais persuadé que j'étais mort. Et puis en fait, j'ai vérifié sur Wikipédia. Et en fait, non, pas du tout. Je suis toujours vivant. Donc, j'ai un petit peu de naphtaline, pardon. J'ai décidé d'intervenir solennellement pour remercier la jeunesse de France, dont le comportement a été admirable lors de ces élections.
Pour remercier donc ceux qui se sont déplacés.
Non, je remercie ceux qui sont restés chez eux. Donc je dis merci par votre abstention, chers jeunes, d'avoir respecté quelque part vos anciens. Merci de ne pas être venus nous casser, nous briser nos modes de vie, nos habitudes avec vos problématiques bidons de je ne sais quoi, de chômage des jeunes, de réchauffement climatique, d'addiction aux réseaux sociaux, paraît-il. En tout cas, grâce à votre abstention, rien ne change. C'est toujours nous, les vieux, qui décidons. Et c'est très bien ainsi, parce que vous, les jeunes, vous êtes trop cons.
Oh, vous pouvez pas être traité de cons quand même, monsieur Balladur.
Mais bien sûr que je peux, bande de cons. Ben oui, s'ils étaient pas cons, ils iraient voter. En tout cas, continuez comme ça. Je vous demande de ne pas vous arrêter.
Merci, monsieur Balladur. Et puis c'est une grande première, Arnaud Montebourg aura son émission tous les vendredis sur BFM. Ce sera à 19h, ça s'appellera Made in Montebourg.
Salut la Pauline, salut David, salut Arnaud, salut les belles, ceux que je connais. Hein, voilà, Mumu, elle est là-bas au fond, oui, ça va. Made in Montebourg, ça sonne.
Vous en aviez besoin.
Ça donne envie, hein, rien que le nom. Ils ont eu le nez creux, les chasseurs de tête de chez BFM, de me recruter. Hein. Bon. Ils n'ont pas eu besoin de chasser très longtemps, j'attendais devant la porte. Enfin, devant la porte, en bas de la porte, avec mon carton sous mon duvet. Et je peux te dire que je la mérite cette émission, parce que ça caille à 7h du matin quand t'attends.
Vous avez eu, après été ministre, eu une activité professionnelle très riche, très variée.
Ah, riche, oui, variée, oui. Oui, j'ai travaillé dans le meuble, hein, dans le miel, dans les glaces, dans les amandes, aujourd'hui le nucléaire. Mmh. Alors forcément, tu te dis, ça part dans tous les sens.
Un petit peu, j'avoue. Mmh.
Mais il y a un fil conducteur à tout ça, tu vois. C'est que je me cherche.
Mmh.
Ben oui.
Vas-y, cherche-toi.
Je suis comme les... Ben oui, ben,
ça s'appelle l'adolescence.
Ben oui, qu'est-ce que tu veux, Marc? Voilà. Je suis comme les abeilles, hein, un calfa. Je butine à droite, à gauche, voilà. Hein. Mais ma force, c'est que même si je réussis nulle part, tu vois, je continue d'essayer partout. D'ailleurs, notre devise chez les Montebourg, c'est même si tu te gourres, tu t'inquiètes pas, ce qui compte, c'est le discours.
Ah oui.
Mmh. Et je peux te dire que sur BFM, le Arnaud, il va pas faire de l'eau tiède dans le poste. Mmh. Parce que tu remarqueras un truc, nous les anciens ministres, dès qu'on n'est plus au gouvernement, tout de suite, on devient beaucoup plus compétents.
Ah bah c'est sûr. Donc, vous faites de la télé maintenant.
Ah mais la télé, je peux tout faire la télé, tu vois, des chiffres et des lettres, questions pour un champion, je pourrais tout faire, éducation pour un champion, je te le fais. Bravo Jean-Paul, vous avez gagné un dictionnaire sur les papillons nocturnes.
Ah oui, vous le faites bien.
Ouais. Le plus grand cabaret du monde, tu vois, le plus grand cabaret. Même Fort Boyard, mon concept, je le fais, tu vois. Je prends Louis Boyard, j'enferme dans un fort.
C'est bon, et puis vous pouvez faire quoi d'autre?
Et puis, et puis c'est tout. Hein. Ah, oui. Bon, ça fera pas une émission très longue, mais ça fera plaisir à tout le monde. Avant de te quitter, tu vois, Pauline, avant de te quitter.
On
va enfermer Pauline. Et ça, il vient de comprendre. Il comprend tous les 20-10 ans d'après, là, pour la Pauline. C'est ça qui fait l'aise.
Oh, écoutez, je suis fatigué. Oh.
Et tu vois, je vais te dire, avant de te quitter, Pauline, je voudrais avoir une pensée pour un gars. C'est le gars Alain Marchand.
Ah oui.
Tiens. Parce que passer derrière moi, c'est difficile. Ouais. Surtout avec un petit sommaire des GG où à tous les coups, il va encore parler du prix de l'essence. Allez, vas-y, moi, Alain, fais-nous rêver.